Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Non mais en vrai je dis ça, mais la majeure partie de mes meubles, ce sont donc des meubles qui appartiennent à mes parents, et la vérité c'est que c'est des meubles beige et blancs, et les murs sont blancs.
Tu vis chez Anthony ?
Mais j'essaye de...
Je suis ton père.
C'est mon père, mon
Dieu. On apprend des trucs là. Bonjour à tous et bonjour à toutes, et merci d'être là à nous écouter pour ce nouvel épisode de LMK. Je suis en ravissante compagnie ce jour, puisque à ma gauche se trouve Ariane.
Salut à tous, j'espère que vous allez bien.
À la gauche d'Ariane se trouve Anthony.
Bonjour à tous.
Et à la gauche d'Anthony, nous avons Fanny.
Bonjour.
Et Fanny, toi, c'est la première fois que tu participes à LMK.
Mais oui, j'ai peur.
Welcome.
Non, n'importe quoi.
Ça va trop bien se passer. Pour vous qui nous écoutez, les auditeurs et les auditrices, Fanny, c'est la personne dont on parle souvent depuis quelques semaines.
Souvent, genre je... ça fait quelques épisodes, souvent.
Et quand même, tu fais désormais partie des murs. et vu qu'on a une salle qui est complètement vitrée, je ne sais pas si ça marche quand même de faire partie des murs, mais bref, c'est toi qui nous accompagne chaque semaine pour enregistrer ce podcast, pour le mettre en beauté. Voilà, tu lui fais une belle mise en beauté.
Mais vous êtes déjà très belle et très beau, oh là naturellement. Là. J'ai pas grand-chose à faire,
elle,
franchement.
Elle arrive dans l'MK, elle nous fait des compliments.
Bah oui.
Non, en tout cas, ravie Fanny de t'avoir avec nous.
Merci de l'invitation.
Est-ce que tu veux te présenter pour les auditrices qui nous écoutent, nous dire un petit peu qui t'es, ce que tu fais
Alors, je suis taureau, ascendant taureau. Non, alors ça, on
très important. Info numéro une.
Non, mais ça, c'est vraiment, une copine m'avait dit, tout est en taureau chez moi, vraiment à une ou deux choses près. Non.
Ah, moi, j'ai pareil en vierge, mais je ne sais pas ce que ça veut dire non plus.
Non plus. Alors là, ne me demandez pas, moi.
Non, sinon, blague à part, je m'appelle Fanny, je fais du podcast en dehors de Mademoiselle. Je fais notamment Passion médiéviste, qui est un podcast... Alors, vous voyez, sujet de niche, moi, je suis encore plus dans des sujets de niche très, très, très niche. Moi, c'est sur le Moyen-Âge. Donc, j'interviewe des gens qui font des recherches là-dessus. Et le but, c'est que ce soit accessible à plus grand nombre. Et puis, voilà, c'est plein de podcasts. Et donc, je suis très contente d'être là.
Trop chouette. Bien. Et où on peut te trouver si on te cherche, Fanny
On peut sur Twitter. Alors oui, j'ai Twitter avec Fanny Cohen-Moreau, mais sinon sur Instagram, il y a Passion médiéviste et c'est là où je communique le plus aussi.
Ok, bon, tous ces petites infos seront dans la bio de l'épisode.
Vu que c'est moi qui l'ai fait.
Voilà. Et n'hésitez pas à aller découvrir du coup le travail de Fanny. Avant de commencer cet épisode, on a pas mal de petites infos. Alors, la première étant la suivante, on n'était pas là la semaine dernière. C'est ma faute, parce que j'étais malade. J'ai été malade une bonne partie de la semaine. Et comme on enregistre ce podcast vraiment d'une semaine sur l'autre, pour être dans la fraîcheur de notre
kit. En flux tendu, comme j'aime à dire.
Totalement. Et bien, du coup, voilà, l'épisode est malheureusement tombé à l'eau. Donc, on en est vraiment navré. J'en suis en tout cas profondément navré. Et surtout, l'autre chose importante dont on voulait vous parler, c'est que... Ariane, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot.
Allez,
sur...
je me charge de la communication de cette information.
Allez.
Alors, déjà, on tient à vous informer que dorénavant, on vous tiendra davantage au courant, notamment quand un épisode saute pour X ou Y raison. Je vais essayer de reprendre un petit peu plus l'activité du compte Insta d'LMK, parce que j'ai cru entendre et j'ai cru surtout lire que ça vous manquait un peu, et donc écoutez, je vais faire de mon mieux pour prendre du temps, pour accorder un petit peu plus rendre un peu plus active la page d'LMK qui après le départ de Mathis a été effectivement un petit peu inactive.
Bah, en fait, c'est ça la précision qui est importante à faire, donc déjà encore une fois, c'est vraiment l'épisode des excuses, quoi. Désolée si on a délaissé ce compte et que vous avez eu l'impression à un moment ou à un autre qu'on vous a délaissé aussi. C'était pas du tout notre envie, notre objectif. Il faut savoir qu'avant Matisse, feu Matisse,
non,
il n'est pas mort,
il n'est pas mort,
il n'est pas mort. Matisse gérait tout seul les podcasts de Mademoiselle, dont LMK, et la gestion de cette page Instagram. Et il faut savoir que c'est une tâche qui est réalisée par Ariane aujourd'hui. Et Ariane, elle a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et c'est ce qui a fait que on s'est un peu perdu dans... Puis c'est surtout que Matisse, mine de rien, avait du talent, un talent bien à lui.
Un talent de comique pour, que je n'ai pas, je suis navrée.
Je vais faire de mon mieux,
mais bon.
Mais en tout cas, il arrivait à sortir de cette tête absolument créative des choses assez chouettes à poster sur ce compte Instagram. Et c'est pour ça qu'on aimerait savoir aussi ce que vous... vous aimeriez voir sur ce compte Insta. Alors attention, les demandes un peu rocambolesques.
Des photos, des coulisses incroyables.
Voilà, mais ça, on est carrément capable de le faire.
Ouais.
Et y a plein de choses qu'on est capable de faire. Et nous, on aimerait bien comprendre un petit peu ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez lire. Et puis réfléchir à comment on peut mettre tout ça en place pour être calé sur aussi... vous, ce dont vous avez envie.
Ouais.
Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous le dire sur ce compte Insta. Vous pouvez aussi nous envoyer des DM sur Insta,
ouais.
sur Twitter, enfin là où vous avez envie de communiquer avec nous. Et puis voilà, on est vraiment à votre écoute, tout simplement.
Et je serais ravie de reprendre le flambeau et de trouver du temps dans ma semaine pour pouvoir faire ça, si ça vous fait plaisir.
Voilà. Ariane est toute dévouée, quoi.
Bien
vraiment.
Sûr.
Et elle fera ça à merveille.
Vraiment,
mais oui.
Je l'espère.
Cela étant dit, nous allons pouvoir débuter cet épisode. D'abord, comment vous allez ? Je vous ai même pas posé la question.
Oh, ça va bien.
Moi, c'est une cata, mais bon, je vous laisse la parole.
Oula, parce que...
Non, mais là, j'ai un karma depuis
mais
deux
déjà,
mois.
Mais déjà, il y a deux semaines, t'étais pas très bien.
Oh là là. Bon, bref, j'aurai l'occasion de vous en parler davantage. Je ne veux pas teaser.
C'est l'objet d'un kiff, donc.
Oui, écoute, d'un kiff, j'essaye de tirer du positif de tout ce qui se passe. D'accord. Parce que là, c'est cata. Bon, bref.
Okay. Et Anthony, ça va, toi ?
Intensément,
j'adore cette réponse aussi. Génial. Ok, alors pour débuter ce LMK.
Mais oui, j'ai dit que ça allait.
Pardon.
J'ai dit que ça allait. Non, je ne l'ai pas ignoré sciemment.
Ça, c'est mon bizutage en partie, je comprends. Elle ne me parle pas beaucoup. Et
Fanny. Horrible, horrible.
Fanny, who?
Non, mais oui, ça va.
Eh bien, Fanny,
oui.
Voilà, puisque tu en parles, tu vas être la première à qui je vais poser.
Mon Dieu.
Poser cette question, soufflée par Ariane.
Et ouais.
Alors Fanny, quelle décoratrice ou décorateur, à toi de voir, d'intérieur es-tu ?
Je fais des choses assez simples, mais d'ailleurs c'est d'actualité parce que ce week-end j'ai re-rangé mes livres chez moi.
Ah.
Alors en fait, y a des choses qui ont changé dans ma vie récemment et j'ai envie de changer des choses dans mon appart, mais mes meubles, je les aime bien. Je vais pas changer les meubles pour les changer et tout ça. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux changer ? Eh bien, j'ai une grande bibliothèque. Je me suis dit, allez, j'ai tout descendu. J'ai réfléchi pendant une nuit. Donc pendant une nuit, tous mes livres étaient dans mon salon par terre. Et vraiment, le lendemain, je me suis dit, ok, je vais les réarranger, je vais les réagencer comme ça. Donc, je suis une décoratrice, mais plutôt de choses simples. Je fais à l'instinct, je vais pas chiner des trucs de ouf.
Okay.
J'aime bien quand c'est plutôt épuré. Genre, il y a un coin de mon salon où il y a des choses, mais sinon, c'est plutôt simple. Mmh. J'ai un copain qui était venu chez moi qui m'a dit, tes murs, ils sont blancs, il n'y a rien. Je fais, ouais, mais en même temps, je bosse chez moi.
Ouais.
Donc, ça me fait du bien que tout ça calme. Mais cela dit... Par contre, à l'opposé total, ce week-end, j'ai passé... Là, vraiment, c'est un jour, j'en parlerai peut-être si vous voulez. J'ai passé mon week-end sur Animal Crossing.
Évidemment.
Et ma maison d'Animal Crossing, c'est l'inverse. Elle est ultra surchargée.
Vrai.
Vraiment, je réfléchis à des thématiques de déco et tout.
J'adore.
Ça.
Tu te fais tous les kiffs que tu ne ferais pas chez toi.
J'ai des plantes.
Dans la
j'ai
vraie
plein
vie,
de plantes. Alors, chez moi, j'en ai quelques-unes en vrai. Mais là, d'Animal Crossing, laisse tomber. C'est des plantes, des fleurs incroyables. Donc... Je suis une décoratrice d'intérieur quand je peux, un peu impulsive comme ça. J'aime bien mettre plein de petites choses, plein de petits détails.
Et comment ça s'est terminé pour ta bibliothèque alors ?
Franchement, j'ai bien rangé. Je suis très contente. Et même comment j'ai réarrangé les choses, eh bien attention, et ça c'est rare de pouvoir le dire, j'ai de la place pour d'autres livres.
Ouais. Ça, c'est un kiff, ça.
Ah ouais, non mais c'est ça. Mais là même, je me fais peur. Je dis, non mais Fanny, ça veut dire que quand je vais aller dans une librairie, je vais me dire, ok, je peux acheter des livres
tu
en plus.
Ben oui.
Donc avant tu dis non, j'ai pas de place, c'est un appart parisien, t'as pas de place, mais là, oh, j'ai de la place.
Et là tu te dis que t'as trop de place et limite tu vas en acheter plus.
Non, je sais être raisonnable parce que j'ai déjà plein de livres à lire, mais voilà, maintenant il y a une petite chose dans ma tête qui me dit, maintenant tu peux, quand tu hésites, si t'as les sous, tu peux. Donc, est-ce que je vais le regretter ? Je ne sais pas, mais déjà, mentalement, ça me fait du bien d'avoir re-rangé mes livres.
Ouais. Alors moi, il y a un truc que j'adore regarder chez les autres, justement, c'est ta façon de ranger ta bibliothèque.
C'est hyper important.
Ouais.
C'est hyper important. Alors moi,
ah
c'est
ouais
pas...
Mais il y a des... jamais pensé à ça, moi.
Non, mais il y a des gens qui font par maison d'édition, par couleur. Alors les Américains, ils aiment bien faire par couleur, en tout cas
ouais
sur Instagram.
Ouais, ouais, j'ai capté ça.
Moi, c'est par thématique. Clairement, c'est par thématique, puis par taille.
Ok.
Donc, par exemple, j'ai une thématique histoire, j'ai une thématique Maroc, j'ai une thématique féministe, wow, j'ai une thématique littérature. Et voilà, donc j'ai plein de choses comme ça.
Et comment tu les délimites ? C'est genre par étagère ou...
Oui, par étagère. D'accord. Je fais comme ça. Et par, j'ai,
tu mets
j'ai...
des étiquettes ou pas ?
Non, 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 même pas.
Une bibliothèque.
C'est pas un CDI,
non. Non, je okay, ne suis d'accord pas la dame du CDI, j'ai un coin Tolkien, voilà, donc j'ai tout ça, okay, et vraiment ça me fait du bien, même, un peu, c'est un peu comme si je rangeais ma tête, c'est un peu comme si c'était mon espace mental que je range avec tout ça, donc ça fait
mais
du bien.
Si t'as un livre sur le féminisme au Maroc, tu le mets où ?
Bonne question,
j'ai trouvé la faille.
J'en ai eu quelques-uns comme ça où je sais pas les mettre, et je le mettrais plutôt dans féministe, je pense, féminisme, parce que du coup c'est comme le féminisme, le sujet, on parle du Maroc, mais, non, mais là j'y avais pas pensé à ça. Mais bah, je pense que ça dépendrait du livre ou de mon feeling. Même, je m'amuse à faire des trucs, des rangements, mais des blagues à moi-même. Genre dans la... Et après, je vous laisse parler, mais dans la section histoire, j'ai mis des historiens entre eux. Je sais qu'ils s'aiment pas. Et
MDR,
ça me fait juste
vraiment
beaucoup trop rire de
blague historienne, quoi. Non. C'est très, très niche.
Je sais que tel historien et telle historienne ne s'apprécient pas. C'est vraiment... Ouais. Et juste, je les ai mis à côté. Je fais... Donc voilà, il y a de la logique qui est propre dans ma tête.
Ce serait très drôle qu'un jour, il y en ait un qui vienne chez toi et qui voit ça. Ce serait tellement drôle.
Ça me terrifierait, je pense. Mais
tu penseras
pas
aller changer de place avant son arrivée.
Oui, ça va discuter.
Bon, en tout cas, la réflexion d'Anthony t'a visiblement un petit peu perturbée.
Oui, non, mais oui. Mais j'ai eu 2-3 cas de livres où je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais ? Il y en a un que j'ai viré de chez moi parce que justement, je me disais, en fait, je l'aime pas tant que ça, finalement. Allez hop, boîte à livres.
Ah ouais,
trop bien. Mais tu vois, ça aurait pu faire une question en soi. Comment je suis ta bibliothèque ?
C'est vrai.
Que ça veut dire tellement.
Et bah, dans quelques semaines, on pourra la reposer.
Absolument. Absolument. Anthony, qu'en est-il pour toi ? Quel décorateur d'intérieur es-tu ?
Un décorateur assez procrastinateur. Vraiment, ouais. Je mets un temps fou à décorer chez moi, en l'occurrence, parce que j'ai changé d'appartement récemment. Et depuis l'aménagement au mois de mai environ, il y a plein de choses qui sont dans les cartons encore. Enfin, c'est pas tant des choses, que j'ai ramenées de mon ancien appartement que des choses que j'ai achetées et qui est même pas encore montée parce que je suis pas très très bricoleur. Les MKR le savent, mais ça va venir petit à petit. Là, hier, j'ai monté un pouf qui était dans son carton tout neuf.
Comment tu montes un pouf ?
Bah, c'était très simple, mais j'ai procrastiné le truc pendant très longtemps et c'était vraiment 4 vis à mettre. Entre deux, je sais pas comment dire, en gros, il y a l'assise d'un côté et les pieds de l'autre.
Ah,
et c'est un pouf coffre dans lequel j'ai enfin pu mettre mes plaids. Et ça faisait, je crois, un mois qu'il était chez moi dans son carton et qu'il prenait de la place. Bon, le pouf prend autant de place, évidemment, mais c'est plus joli un pouf qu'un carton.
Oui, un carton, effectivement.
Et vraiment, je procrastine énormément, quoi. Là, il y a encore plein d'autres choses, des détails, mais des meubles. Enfin, la décoration, en fait. Là, il y a le gros des meubles qui est là et il manque la décoration pour habiller les murs, pour notamment la bibliothèque. C'est très compliqué. Mais pour répondre à l'autre question qui n'est pas une question, je ne range pas ma bibliothèque. Ma bibliothèque est un chaos total. Et d'ailleurs, ça a été un grand sujet ce week-end parce que j'ai déjeuné chez mes parents et ma sœur était là aussi, ma grande sœur, qui adore piocher dans mes livres. Et du coup, j'ai laissé plein de livres chez mes parents. Et mon père est tombé sur un livre qu'il est en train de dévorer actuellement parce que ma mère a fait son coming out féministe récemment. Bon, bref, trop d'histoires. Mais en gros, mon père est en train de lire un livre sur... Pour que les femmes aient le droit de vieillir, je crois que c'est de Amandine Castillo, sur le vieillissement des femmes. Et il est en train de le dévorer. Et ma sœur dit « Ah, mais attends, on a le droit de se servir dans la bibliothèque d'Anthony et tout. Moi aussi, je veux me servir. » Et donc, en fait, ils sont en train de chercher dans ma bibliothèque. Ils disent « Mais Anthony, elle n'est pas du tout rangée. »
Mais...
Effectivement, tous mes livres s'entassent les uns sur les autres. Ils ne sont même pas genre sur la... Ils sont même pas debout. Ils sont vraiment couchés les uns sur les autres.
Moi, j'en ai quelques-uns couchés aussi. Hein. Je change et c'est esthétique. Mais est-ce que ça te plaît comme ça ou pas ?
C'est même pas une réflexion. C'est que je procrastine tout. Et en fait, notamment, ils me tombent dessus la nuit parce que quand je dors chez mes parents...
Mais c'est dangereux !
C'est très dangereux. Et même une fois, mais c'est très symbolique aussi. C'est le poil à la littérature qui me réveille la nuit. En gros, il y a une montagne de livres sur ma tête de lit chez mes parents. Et un portrait de James Baldwin, un auteur afro-américain que j'adore, qui est par-dessus le livre, et une fois il m'est tombé dessus. Et le verre s'est brisé. Oh. Et ça m'a blessé dans mon sommeil.
Mais non.
Donc t'as été blessé par James Baldwin.
J'ai été blessé par James Baldwin. Enfin, j'avais déjà été en lisant ses textes, mais lisez Giovanni's Room,
mais
s'il vous plaît.
Mais t'as dû te réveiller en tachycardie, là.
Pas du tout. Je me suis réveillé en disant, c'est un signe, il faut que j'écrive.
Mais oui, vrai. Mais c'est comme ça qu'il faut voir les choses.
Vrai.
Bien
c'est
sûr.
Vraiment ce que je me suis dit, vraiment. Je me suis pas dit, ah, il faudrait que je range ma chambre. Ouais. Mais non,
t'avais l'impression.
Dit, ah, il faut que j'écrive un livre. Ouais. Ça m'arrive quand je suis chez mes parents, vraiment, c'est ainsi.
Moi, ça me donne envie de venir ranger les livres chez toi, mais avec ton accord, tu vois. Mais
ben, non, mais je pense que c'est.
Avec ton accord.
Je pense que ça me convient, ce chaos. Il est même pas organisé. Je ne sais jamais ce qui est dans ma bibliothèque. Et justement, ma sœur me dit, ah, tu me conseilles quoi? Je dis, bah, en fait, je ne sais même plus ce qui est là. Et parce que c'est pas ma bibliothèque principale, et là justement il faut que j'acquière une bibliothèque principale dans mon appartement, et c'est la cata parce que je me dis, si j'achète un meuble exprès, il faudrait que je range. Et quitte à ranger, autant le faire avec une organisation qui me permettrait de me retrouver. Et si j'ai des gens qui passent chez moi, et ben il faudrait aussi que je puisse leur dire, ah bah ça va être à tel endroit, etc. Et je crois que je n'en ai pas envie. J'aime bien ce chaos. Et pour conclure, je dirais aussi que ça me permet de me laisser surprendre par mes livres. La nuit, mais le jour aussi.
Ouais, j'adore cette chute. Voilà. Incroyable.
Est-ce que tu passes beaucoup de temps chez toi ou pas?
Ah, mais j'adore rester seule chez moi. C'est vraiment ma passion. Okay. Et justement, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que je prends un livre, n'importe lequel, et je me dis, ah bah, est-ce que je l'ai lu, est-ce que je l'ai pas lu, et puis je le dévore, quoi.
Je fais un peu ça aussi. Ouais.
Là, je suis en train de lire Ce que je sais de toi de Éric Lacour, mais je vous en parlerai dans un futur kiff, je pense.
Trop bien.
Mais que de teasing, c'est pas possible.
Trop bien.
Ariane, qu'en est-il pour toi?
Alors, bon, comme vous le savez ou pas, je vis encore chez ma mère. Pour la énième fois, je le répète. La honte, bon bref. Et du coup, moi, je suis une décoratrice intérieure. Je pense que le maître mot, ça serait loufoque. Parce que j'aime bien les objets un peu chelous. Et ça va pas forcément avec le reste, mais du coup, ça crée une sorte de cacophonie que moi, j'aime bien. J'ai énormément de trucs sur mes murs que je change assez régulièrement quand même. J'aime bien avoir des petites affiches, mais encore une fois, un peu loufoque. Enfin, là, par exemple, quand je suis allée en Italie, j'ai pris une affiche immense du processus de fabrication de pâtes artisanales. Enfin,
Des pâtes alimentaires.
Ouais, des pâtes alimentaires. Je sais pas, j'aime bien un peu les trucs comme ça, un peu chelous. J'achète beaucoup aussi, vous savez, quand on fait les expos au musée, souvent il y a les cartes postales à la boutique.
J'adore.
Je prends toujours les tableaux, pas forcément qui m'ont le plus marqué, mais ceux que je trouve un peu chelous. Et je fais un peu attention aux couleurs pour le coup. Il y a une sorte de, quand même, de. Comment dire, d'attention, voilà, d'attention portée aux couleurs sur le mur que j'ai avec plein d'affiches dessus. Mais effectivement, les objets chelous, c'est, je dirais que c'est le maître mot. Et aussi, je hais la neutralité en termes de couleurs. Je hais les associations de beige, blanc, noir. Ah ouais. Vraiment, ces trucs, je peux pas.
C'est quand même comme ça chez moi.
Désolée, Anthony.
Non, mais très bien, très bien. Avec des trucs de bleu pan. Mais ouais, c'est
ça
beige,
va,
blanc.
Bleu pan.
Beige, blanc.
Oui, c'est pas totalement nude, quoi.
Bah, c'est très Sarah Lavoine. J'avais un amant qui s'était moqué de moi. Il m'a dit, oui, c'est très Sarah Lavoine, très 2010.
J'ai aucune
rêve. Dépassé.
C'est volontaire.
Je connais
ou pas,
pas non plus.
Non, c'était une référence inconsciente que j'ai dû avoir dans ma tête.
D'accord.
C'est une décoratrice d'intérieur aussi.
Ah, ok.
Qui a une marque.
D'accord.
Anonyme.
J'ai pas la ref.
Et ça coûte extrêmement cher. Mmh. C'est très beau, mais c'est très très cher.
Et ouais. C'est ça, c'est beige, blanc, bleu, pan et
très
un peu d'orange.
Après,
c'est très Instagram 2010. Genre.
C'est très Instagram, c'est pas faux.
Oui, j'ai compris.
C'est pour ça que j'ai compris qu'il était démodé.
Oh, mais n'importe quoi. Non, mais en vrai, je dis ça, mais la majeure partie de mes meubles, ce sont donc des meubles qui appartiennent à mes parents. Et la vérité, c'est que c'est des meubles beige et blancs et les murs sont blancs.
Tu vis chez Anthony?
Mais j'essaye de.
Je suis ton père.
C'est mon père.
On apprend des trucs là. Incroyable.
Mais j'essaye de y apporter ma touche personnelle parce que bon, en fait, j'essaye de pas trop investir d'argent dans cette chambre parce que je me dis, en fait, un jour, et d'ailleurs prochainement, je vais la quitter, donc ça sert à rien de commencer à repeindre des trucs. Mais par exemple, j'avais racheté des rideaux colorés, mes housses de couette et tout ça, le linge de lit, machin, je les achète à mes goûts. J'essaye de trouver des bibelots qui me ressemblent, des choses comme ça. Mais du coup, je suis un peu obsédée par la décoration de l'intérieur. Et du coup, j'ai plein de comptes TikTok où je les enregistre, machin, pour mon futur appart. J'ai trop envie de couleurs.
La pression est immense, du coup.
Ouais. Mais après, je pense en vrai que je vais probablement procrastiner aussi, même quand j'aurai trouvé mon appart. Mais parce que j'aime bien trouver l'objet juste. J'ai pas envie d'acheter un peu n'importe quoi. du coup, tant pis, peut-être que mon appartement sera blanc et vide pendant des mois, mais jusqu'à ce que j'arrive
Welcome
à trouver...
Welcome to my
non,
life.
Mais vraiment.
Mais c'est pas grave, petit à petit, j'arriverai à trouver les inspi qui me plaisent ou les objets qui me plaisent, aussi parce que il faut quand même préciser que ça coûte cher, en fait, de décorer son intérieur. Ouais. Donc,
à part si tu écumes les brocantes.
Voilà, voilà. Mais écumer les brocantes, etc., ça prend du temps.
Et le temps, c'est de l'argent.
Et le temps, c'est
voilà.
Très cher.
Exactement.
La boucle est bouclée.
Donc, probablement que ça me prendra du temps, mais que j'espère arriver à faire quelque chose de coloré et à mon image.
Et je pense que c'est intéressant aussi de prendre son temps pour le faire, parce que le work in... Et il y a aussi beaucoup de beauté dans le work in progress.
Je suis d'accord.
Enfin, mon appartement avec des cartons, en vrai, ça me convient aussi. Et avoir des cadres photos et des tableaux par terre, c'est aussi charmant. Quoi.
Ouais, je suis d'accord. Carrément.
Même les piles de livres au sol. Hein. Enfin, y a un côté
ouais,
hyper,
carrément.
C'est toute ma déco.
Ah ouais,
bah non, mais il y a un côté très esthétique au final.
Je suis d'accord. Et du coup, je ne range pas ma bibliothèque non plus.
Ok.
Mais pour le coup, c'est un chaos plutôt organisé parce que je sais où sont les choses. Si je cherche un livre, je sais dans quelle partie de. J'ai pas vraiment de bibliothèque. J'ai juste des livres un peu entassés sur des meubles, voilà, aléatoirement. Mais je sais dans quel sur quel meuble j'ai tel livre.
Et quand tu seras dans ton appart, tu penses que
Alors déjà, Marie-Stéphanie, pour avoir une bibliothèque, il faudrait que j'habite dans un plus que 15 mètres carrés. Donc bon, ça sera peut-être dans une autre étape de ma vie. Mais
ça dépend. Qui dit bibliothèque ne dit pas forcément 10 mètres carrés de bibliothèque. Hein.
C'est vrai. Je pense pas que je les rangerais. Mon père range ses livres par ordre alphabétique.
Wow.
Ce qui en vrai est très pratique. Hein.
Bah
on va pas
sûr.
Se mentir, c'est hyper pratique. Mais je l'ai pas, je le
mais
fais pas.
Ça a un côté aussi hyper chouette de passer du temps à chercher un bouquin,
ouais.
Je trouve. Les regarder tous comme ça.
Mais
et
vous cherchez des livres précis ?
Ben non, moi, ouais. Donc c'est vraiment un CDI chez ton père. En fait.
C'est vraiment un CDI.
Bah là pour le coup, c'est vraiment. Et alors, en plus, non seulement c'est classé par ordre alphabétique, mais en plus c'est classé par thématique.
Ah,
c'est-à-dire
okay.
Que t'as
c'est intéressant.
Étage,
on peut trouver comme
c'est un
étage,
peu comme toi.
Ouais.
Mais par ordre alphabétique.
Moi, c'est par taille, vraiment. Moi, c'est vraiment genre, je trouve ça joli de mettre par taille.
Ok.
Ouais, il y a. Enfin, bon, après, c'est thématique, c'est relatif. C'est-à-dire qu'il y a philo. Et le reste. C'est pas non plus hyper. Voilà, mais. C'est pas non plus hyper recherché, mais c'est un peu classé par thématique.
Oh, trop bien.
Voilà. Et toi, Marie-Stéphanie ?
Eh bien, écoute, alors, la première question sur quelle décoratrice d'intérieur je suis rejoint un petit peu celle d'Anthony. Je suis un peu procrastinatrice. Je procrastine, pour faire court. J'adore la déco d'intérieur, vraiment. Genre, je peux passer des heures sur Pinterest à me faire des petits mood boards. J'ai des rêves de maisons de campagne en Normandie avec un décor hyper chouette, hyper cosy, un peu campagne anglaise, tout ça. Mais ça, c'est la théorie. Et en pratique, il y a plusieurs choses. Y a la première chose, c'est que je manque beaucoup de temps. Donc, par exemple, j'ai pas mal de tableaux chez moi, de peintures, d'amis que j'aime beaucoup, soit qu'on m'a offert, soit que j'ai acheté, mais qui sont tous posés sur un meuble ou posés par terre ou posés sur mon bureau, voire il y en a certains, ils sont carrément dans des tiroirs protégés évidemment, mais faut que je les mette sous cadre. Et je manque de temps et aussi de moyens parce que littéralement je sais pas planter un clou, quoi.
Ah oui, ah bah ça
concrètement.
Je comprends,
hein, enfin, je sais, et j'ai un peu honte parce que vraiment, j'ai grandi dans une famille de gros bricoleurs.
Okay.
Et donc, j'ai toujours été associée à des moments où on refaisait des choses, où on construisait, où on bricolait, mais j'en ai rien gardé. Et il se trouve que mon mec n'est pas du tout bricoleur. Donc, tout ce qu'on voudrait mettre au mur reste sur le sol ou sur les meubles. Parce que ni l'un ni l'autre, on est capable d'accrocher un tableau de façon droite. Quoi.
Mmh. Et tu voudrais apprendre ou tu voudrais charger une personne de le faire un jour, comme ça elle passe et elle te plante les clous, quoi.
Au fond, j'aimerais vraiment apprendre parce que j'ai envie de pouvoir le faire moi-même et même derrière de pouvoir, si je veux tout simplement changer de place, les tableaux, bah, les changer de place. Mais je crois qu'un jour la flemme va faire que peut-être je demanderai à quelqu'un qui sait faire et qui passera et qui les accrochera tous, quoi.
Bah surtout mais... que pour apprendre il faut que quelqu'un passe pour le faire avec toi, non? Ou alors tu regardes un tuto YouTube.
Ou mais alors, bon. Ouais, je sais, toi, Anthony, t'es adepte des tutos YouTube, il me semble, non?
Je suis très adepte des tutos YouTube, mais je suis aussi très adepte d'exploiter mes amis qui passent.
Ouais,
et
franchement.
Donc, à chaque fois qu'elles passent dans mon appartement, je leur dis « Ah, regarde, il y a un carton
ouais.
Ah, j'ai pas eu l'occasion de l'ouvrir !»
C'est
et
pas
tout.
Mal comme technique.
Et donc, c'est comme ça que j'ai monté ma table, que j'ai monté aussi mes tables basses, que j'ai aussi fait mes plafonniers dans ma cuisine et mon entrée. Et là, il faut que j'invite des gens pour refaire les étagères
moi,
dans mes placards.
ça donne grave l'impulsion de le faire avec du monde. Oui. C'est pas du tout pareil que quand tu dois te décider tout seul à faire tes trucs.
Moi, j'ai eu ça parce que j'avais une copine. Là, ce week-end, je faisais rien, je me reposais. Mais j'ai une copine, je lui dis, bah, viens, je t'invite pour le goûter. Elle habite juste à côté de chez moi. Donc, elle venait le dimanche à 17h. Je me suis dit, OK, il faut que ma bibliothèque soit terminée le dimanche à 17h. J'avais mon objectif et voilà, comme ça, c'était tout
bien. Ah oui, mais toi, tu l'as terminée toute seule.
Oui, non, après,
alors qu'Anthony, il invite ses potes à goûter pour monter la bibliothèque.
Mais parce que c'est des gens qui t'aiment, et ben ces personnes sont ravies de t'aider.
Mais grave.
Oui. Non, mais t'as raison. Et en vrai, tu passes un bon moment avec tes amis aussi.
Exactement.
Ouais, carrément.
Ça fait une activité en même temps qu'on papote.
Non, mais grave. C'est une bonne idée.
On a monté mon canapé comme ça aussi.
C'est trop bien.
J'ai l'impression que t'as monté tout ton appart.
À peu près, ouais.
Et en plus, c'est gratuit, donc franchement.
Bien sûr, optimisation.
Activité gratuite.
Mais donc voilà, donc je procrastine un petit peu et je suis pas très bricoleuse. Et en vrai, ouais, c'est ça. Et pourtant, vraiment, j'adorerais, mais j'ai l'impression qu'entre la théorie et la pratique, entre les jolies photos de mon board Pinterest et ma maison actuellement, et pourtant, enfin, si vous venez chez moi, vous verrez que c'est plutôt joli, c'est plutôt décoré. Mais on a l'impression que c'est un peu en stand-by, que voilà, que ce tableau doit être accroché là et qu'il attend et que et il manque des petites choses, il manque quand même pas mal de petites choses. Et pour ce qui est de la bibliothèque, alors moi je range par couleur.
Arrête,
ouais. Ah, tu es de ces gens.
Je suis de ces gens parce que je trouve ça super beau.
Ah
vraiment,
oui, c'est
genre
beau,
c'est ma bibliothèque arc-en-ciel. Et je le fais depuis très peu de temps. Avant, en fait, je rangeais pas vraiment. C'était un petit peu un mix de livres entassés, comme tu disais tout à l'heure, Anthony, soit à l'horizontale, soit à la verticale. Et on s'est fait justement construire une très jolie bibliothèque chez nous. Et il y a la place pour vraiment mettre tous mes bouquins. Et j'ai une verrière chez moi. Donc, c'est sous une verrière. Donc, il y a pas
stylé.
Mal de lumière. Et du coup... T'as vraiment, ça rend le côté, enfin, ce
tout
petit endroit beaucoup plus. Bah ouais. à
oui,
terme, au final, j'aurai une bibliothèque blanche. Et non, et voilà, j'aime bien le côté. Après, c'est pas du tout classé par. De toute façon, je pourrais pas par ordre alphabétique ou thématique ou quoi que ce soit. C'est vraiment tout mélangé.
Mais ce que je me disais, c'est que les maisons d'édition en France, les bouquins sont très blancs quand même.
Ouais.
Donc t'as beaucoup de couleurs.
Ça dépend. Franchement, j'en ai beaucoup. Limite faudrait qu'on mette des photos de nos bibliothèques.
Bah oui, voilà, sur Instagram.
Ah ouais,
bah
voilà, magnifique. Je vous mettrai les photos de nos bibliothèques respectives. Voilà.
Mais non, moi j'en ai vraiment beaucoup. Alors après, effectivement, oui, j'ai beaucoup de blanc aussi. Mais franchement, ça fait quand même un bel arc-en-ciel. Donc après, j'ai pas mal de livres d'art aussi, donc forcément un petit peu plus coloré.
Ah oui.
Même des romans en poche. Tu vois, parce que souvent les premières éditions, elles sont très blanches, ou en tout cas la tranche est très blanche, mais les poches, souvent, sont un petit peu plus originaux que les premières éditions, je trouve en tout cas. Et moi, j'adore pour le coup chercher mon livre. Et vraiment, j'adore ça, j'adore me perdre un petit peu, où je dis à une amie, ah tiens, j'ai pensé à ce bouquin pour toi, il faut absolument que je te le prête. Et du coup, je passe 5-10 minutes comme ça à chercher, j'aime trop ça. Je trouve que ça fait partie du plaisir aussi d'aller trouver ton livre et de te dire, ah, je l'ai déjà lu, j'ai corné plein de pages, je m'en souviens, j'ai envie de le relire. Enfin, je trouve qu'il y a un truc du chemin que tu fais vers ton livre qui est assez chouette dans le fait de le chercher. Et pour le coup, mon goal de bibliothèque, je ne sais pas si vous voyez la bibliothèque d'Augustin Trappenard.
Non.
Waouh, wow, alors
pas
là,
vu
pas
c'est
vu.
Tout le mur, quoi.
Bah, c'est une pièce entière avec les murs. Je crois qu'il y a un mur qui n'est pas... Bah, il y a un mur sur lequel il y a une fenêtre.
Je
ne sais
pas, il a déménagé l'an dernier, je crois. Donc, sa bibliothèque est différente.
Vous êtes tous allés chez lui, c'est pour ça?
Non,
il y a des photos partout.
Pas du tout. Moi, j'ai vu ses photos sur son compte Instagram.
Et c'était la toile de fond aussi d'émission qu'il faisait.
Ouais. Ça,
ah,
21
oui,
centimètres,
je vois,
notamment.
Oui. Ah oui, bon, c'est une énorme bibliothèque, oui.
Oh, énorme bibliothèque avec des canapés de Chesterfield.
Sur le compte Instagram, il en a carrément fait 3 photos pour qu'on voit... l'ensemble de cette bibliothèque.
Bah, il a la part qui va avec aussi, c'est
il
sûr
a clairement
que ça aide.
La part qui va avec. Voilà, on n'a pas tous la capacité d'avoir un appart aussi grand que ça. Mais bref, je la trouve très belle, sa bibliothèque.
Est-ce que vous éprouvez une sorte de satisfaction à posséder vos livres ou pas? Parce que moi, oui.
Ah oui, moi
elle
aussi.
Elle est possédée.
Ah. Moi aussi.
Bah, je sais pas, ce truc un peu d'accumulation où tu vois que t'as beaucoup de livres, où tu te dis, j'ai lu tout ça.
Je n'ai pas cette jouissance-là.
Moi, c'est plus ce qui me représente. Je me sens vraiment, quand je vois mes livres, quand je vois ma bibliothèque, je me dis, oui, bah ça me fait partie de moi.
Okay.
C'est vraiment mon côté espace mental, en fait.
Je comprends.
Donc, je fais gaffe à pas trop mettre de livres que je n'ai pas lus dedans. Il y en a quelques-uns, mais tu vois, les livres d'histoire, des fois, je les ai pas lus en entier.
T'as une pile à côté de ton lit ?
J'ai, alors, pas à côté de mon lit, mais du coup, j'ai dans ma bibliothèque un coin, vraiment, où j'ai, eux, je les ai mis justement à l'horizontale, les livres que je dois lire. Bah, souvent, les services de presse ou quoi, ils sont là. Je les regarde pendant longtemps. Ils me regardent, et puis un jour, je les lirai.
Super. Mais j'ai des piles de livres partout chez moi, en fait. Et dans mon salon, justement, près du canapé, j'ai une pile de recueils de poésie. Et que je pioche comme ça de manière un peu hasardeuse et qui se retrouve parfois dans d'autres espaces de mon appart. Et près de mon lit, j'ai quelques livres de chevet que j'aime beaucoup feuilleter, où j'aime bien revenir. Mais sinon, en vrai, je sais même pas ce qu'il y a dans ma bibliothèque et je n'ai pas l'impression qu'ils m'appartiennent. Donc j'ai pas d'attachement particulier avec les livres. Et justement, j'adore en offrir de manière random ou les prêter sans jamais espérer les revoir un jour.
Oui, alors ça,
je ne réclame jamais mes livres.
Alors que moi, j'ai prêté un livre à un ex, on s'est séparés. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me le rendre, le livre ? On se parlait plus, mais en mode ça allait, tu vois. Mais je lui ai dit, est-ce que juste tu peux. En plus, il était en Belgique, donc c'était loin. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux me le renvoyer parce que j'y tiens à celui-là ?
Ouais. Oh.
Mais je m'en fiche.
Je me sens horriblement matérielle.
Je tiens une liste des gens à qui j'ai prêté des livres.
Ah ouais ?
Ouais.
Oh, wow.
Parce que sinon, j'oublie.
Oui, bah.
Vraiment. Et il y a des livres que j'aime beaucoup, qui m'ont marqué et que j'ai grand plaisir à prêter, mais que j'ai grand plaisir à voir revenir aussi.
Ouais, je comprends.
Parce que ce jour-là où tu as envie de relire ce livre-là et que tu ne le trouves pas, je trouve ça hyper frustrant.
Ok.
Ouais, mais en revanche, ouais, moi je kiffe ma bibliothèque. Je un peu comme toi, je me dis, enfin c'est pas vraiment, ça me représente, mais ça m'évoque des choses, ça me parle. Une lecture est toujours liée à un moment de ma vie, et du coup j'aime pouvoir y revenir aussi, même si je vais pas forcément le relire, mais juste le voir et me dire, ah tiens, ça me rappelle ça.
Ouais, je comprends.
Mais trop intéressant parce que cette question a complètement dévié. On est parti.
Encore une intro bien courte.
Voilà, c'est ça, encore une intro bien courte.
C'est pas la plus longue, ça.
Dites-nous
va.
D'ailleurs, vous, les auditeurices, quel type de bibliovore.
Envoyez-nous des photos de vos bibliothèques, je rêve de voir.
Grave, envoyez-nous des photos de vos bibliothèques, on publiera les.
Grave.
Et vous êtes quel team ? Vous êtes quel team pour le rangement ?
Ouais.
Est-ce que vous êtes plutôt team Anthony de le côté chaos ? Est-ce que vous
qu'on voit comment se répartit un petit peu le monde.
Procrastination.
Est-ce que voilà, non mais on veut savoir aussi, ce serait intéressant.
Grave. Dites-nous. Est-ce que vous avez des commentaires ?
J'ai. C'est en rapport avec le dernier LMK dans lequel je parlais de la lecture à voix haute avec ma maman et du fait que on avait découvert assez récemment en fait les livres imprimés en grand caractère qui sont faits pour les personnes malvoyantes ou les personnes avec un trouble de l'attention ou dyslexique, etc. Donc Marie me dit: coucou, j'écoute le dernier LMK et travaillant en bibliothèque, je me permets de rebondir sur ton dernier kiff pour préciser quelques points sur les collections en gros caractères. Ça peut toujours intéresser. Il y a énormément de bibliothèques qui proposent ce type de livres. Quelqu'un aborde le sujet des livres audio, il est possible d'en emprunter aussi. Et sur Paris, parce qu'on parle de cette ville, mais il y en a dans d'autres médiathèques sur d'autres villes, les bibliothèques Marguerite Yourcenar et Marguerite Duras ont vraiment développé le fond pour les personnes avec déficience visuelle. De l'audiodescription, des livres en braille, des livres en gros caractères, bref, plein de choses. C'était mon côté bibliothécaire qui avait besoin de faire la précision. Merci pour LMK, c'est trop cool la diversité des kiffs. Merci beaucoup Marie pour ces précisions, parce qu'évidemment, j'avais 50% des infos comme d'habitude. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, en fait, l'offre est beaucoup plus étendue que ce que je pensais. Et je dirais à ma mère avec grand plaisir que les bibliothèques Marguerite Yourcenar et Marguerite Duras sont spécialisées dans ce genre de livres. Merci beaucoup pour ce commentaire.
On adore avoir des infos complémentaires.
Ouais, exactement.
C'est trop cool.
Et vous avez des coms ?
Anthony ?
J'ai un commentaire également, effectivement. Alors, mais en fait, c'est en réponse. En fait, ça a engendré une conversation suite à un premier commentaire que j'ai lu un mois après dans LMK. Et en gros, c'est un commentaire de Laetitia qui dit, je cite... alors, parce qu'en fait, je parlais dans un précédent LMK de Entre chien et louve, qui est une pièce... au bon marché, produite avec le cirque Le Roux. Et elle me dit « Trop de chance d'avoir vu cette expérience, j'aimerais trop mais c'est pas donné malheureusement. Je te conseille fois 1000 les autres pièces du cirque Le Roux, notamment leur spectacle The Elephant in the Room qui est dingue. Mais si tu y vas, il faut être au centre dans le public sur le côté ça perd grave de son enceinte. Et qui mêle théâtre, cinéma et cirque avec des numéros dingues. Je l'ai vu en 2018 et de nouveau en début d'année là. Et j'ai noté qu'ils ont modifié le numéro les plus dangereux. Parce que j'imagine que c'était trop risqué. En gros, un couple faisait du roller sur une table et le mec faisait tourner la femme par le cou.
Oh,
j'ai
wow.
beaucoup de mal à visualiser.
Moi
mais
aussi,
j'ai entendu. Enfin, je comprends pas, genre, faire du roller sur une table. Enfin,
je pense qu'à mon avis, lui est debout c'est sur dangereux. La table et qu'il avec le fait qu'il tourne, il tient une femme par le cou, mais tu sais, ils doivent se retenir avec genre style un foulard autour d'eux qui fait qu'elle est en équilibre en fait autour de, accrochée à lui, et elle tourne comme ça.
C'est alors, effrayant.
Je crois que j'ai déjà vu des numéros comme ça. Mais oui, ça,
ça
doit être très,
a l'air
très flippant.
Fascinant et très très effrayant effectivement. Et donc, elle poursuit dans un autre commentaire. Et pour le théâtre immersif, en général, ma passion. Donc très contente que tu ajoutes ça à ton spectre de reco. Si ça t'intéresse, je viens de sortir une vidéo, je fais quelques recos théâtre sur ce compte, sur une pièce de théâtre immersive qui est financièrement plus accessible. C'est pas du tout du cirque, mais pour avoir vu plusieurs niveaux de théâtre immersif, l'expérience est assez chouette. Il y a d'autres commentaires, mais je vais m'arrêter là. C'est le compte en question, c'est Laetitia, donc c'est 3615 reco. Donc,
ok.
3615 R-E-C-O. Si vous voulez avoir plein de recommandations de spectacles vivants... Effectivement, le conte est génial. Donc, merci beaucoup, Laetitia.
Trop bien.
Et très, très envie de voir cette histoire de cirque avec du roller sur une table. Mais en plus, il me semble, mais je ne veux pas dire de bêtises, que The Elephant in the Room avait été primé. Donc, j'ai très, très envie de voir ça. Je pensais que c'était plus joué, mais je vais me renseigner. Voilà.
Trop bien.
Trop cool.
Mais et oui. Vous avez des commentaires ?
Moi, je viens d'arriver, oui, donc
c'est
non,
vrai.
Mais vas-y, Marie-Stéphanie.
Alors, moi, je suis dégoûtée parce que j'ai reçu un message pas plus tard que la semaine dernière, très gentil, que je ne retrouve pas. Et donc, en fouillant mes messages à la recherche de celui-ci, je suis tombée sur un vieux message de cet été auquel j'ai répondu sur Instagram, mais que je n'avais pas mentionné dans aucun épisode. Il me semble, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je ne pense pas. C'est un message de Céleste sur Instagram, CélesteD, qui me dit « Salut, je suis en train d'écouter le dernier épisode de LMK dans lequel tu expliques ta tristesse de ne pas avoir de commentaires. » Et oui, c'est vrai que je me suis beaucoup...
Je crois que tu l'avais déjà lu, celui-là. Ou alors, c'est peut-être quelqu'un qui dit la même chose, mais ça me dit quelque chose.
Bah, j'en avais reçu un autre, dont j'ai déjà parlé, et qui me disait aussi. Parce que je me suis tellement plainte, j'ai tellement pleuré de ne pas avoir de commentaires, que je pense que tous les prochains que je vais recevoir vont mentionner mes demandes. Mais tu vas me dire, je vais finir, tu vas me dire si je l'ai déjà dit. Je m'appelle Céleste et je rentre en L2, donc licence 2 d'histoire de l'art à Rennes. Et merci, vraiment merci de parler de femmes artistes. Ça a fait du bien d'arrêter de parler que des mêmes mecs artistes, souvent problématiques en plus. Encore merci et bonne journée. Donc ouais, je crois que...
Non, tu l'as pas lu,
celui-là.
Je
l'avais pas lu.
Ouais.
Et ben encore merci Céleste pour ton message. Et effectivement, cool que les sujets autour des femmes artistes te plaisent. Moi, c'est clairement ma passion. Donc voilà, je risque effectivement d'en reparler assez souvent. Et on est bien d'accord sur le fait qu'on en a marre aussi d'entendre parler que des mêmes mecs artistes souvent problématiques. Donc merci encore pour ton message. Et puis surtout, tu fais des études trop cool. Donc kiff, bien. On va passer au kiff, justement. Alors, que nous réserves-tu, Ariane, cette semaine parce que tu nous as quand même bien teasé en début d'épisode. Alors,
ouais. Quel
est ton kiff? De quoi s'agit-il?
Je vais encore vous raconter ma vie. Alors, mon kiff cette semaine, c'est ne pas céder à la panique.
Oh,
je m'explique.
Tout un concept,
slash,
déjà.
Slash, gérer mon stress, arriver à gérer mon stress. Donc, je vous explique. Je suis à la recherche d'un appartement à Paris. Enfin, il se trouve que j'ai envoyé des dossiers à tort et à travers. Il y a quelques mois, je dirais, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Les Pieds sur Terre de France Culture, vous connaissez probablement, voilà, dans lequel une femme racontait qu'elle avait découvert, quand elle a eu la trentaine environ et qu'elle a voulu acheter un appartement, qu'en fait, des années auparavant, elle s'était fait usurper son identité et qu'elle était donc fichée Banque de France.
What?
Au moment donc de vouloir contracter un prêt pour acheter son appartement, sa banque lui a dit « Mais madame, vous êtes fichée Banque de France, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas emprunter. » Elle a donc découvert qu'elle s'était fait usurper son identité. Devinez ce qui m'est arrivé.
Non.
Je cherche un appartement depuis une semaine. Le premier dossier que j'envoie... Alors, j'ai fait des erreurs, mais je vous donnerai mes conseils ensuite, dans un second temps. Le premier dossier que j'envoie, en fait, le mec n'était pas du tout proprio. Et je ne sais pas comment vous dire, j'ai eu une sorte de pressentiment. Aussi parce que le mec faisait un peu des fautes, mais je me suis dit, en fait, il y a des gens qui sont dyslexiques, donc pas tout le monde écrit forcément de manière... Voilà, et ça peut arriver. Donc moi, gentille, je lui envoie mon dossier et il se trouve que samedi matin, j'ai reçu un courrier de la part de Cofidis, qui est donc un organisme de crédit, me disant « Merci pour le crédit que vous avez contracté.
Oh » Non.
Bon, donc, tout ça pour dire que je me suis fait usurper mon identité. De fait, quand j'ai envoyé mon dossier au mec, je me suis dit « À mon avis, il y a une couille dans le pâté. » Je le sentais pas. Le seul message que le mec m'a envoyé ensuite, c'est « Pardon, madame, mais il manque le verso de votre pièce d'identité. » Bon, je me suis dit « Bon, là, ça pue. » Ce qui signifie que au lieu de céder à la panique, parce que moi habituellement j'avoue je cède un peu à la panique et je commence à pleurer et à me dire que ma vie est foutue, j'ai fait mes petites recherches et j'ai demandé un rapport à la Banque de France pour en fait pour qu'elle me communique tous les comptes et les prêts qui avaient été contractés en mon nom. Donc en gros c'est juste une petite démarche que tu fais sur internet et ensuite tu reçois le rapport par courrier. Et c'est bien utile quand t'as l'impression, quand tu penses t'être fait usurper ton identité, notamment pour ce genre de choses. J'ai également porté plainte, un vrai plaisir. Donc ce week-end, je suis allée au commissariat, j'ai fait toutes mes petites démarches, j'ai appelé Cofidis, j'ai appelé ma banque. Et finalement, je trouve que j'ai plutôt bien géré la situation. Mon kiff est donc un peu un kiff d'adulte, à savoir faire des démarches en temps et en heure, ne pas laisser traîner le truc et voilà.
Si adulte.
Tout ça pour dire. Tout ça pour dire que si vous cherchez un appartement, ne faites pas comme moi et ne donnez pas les copies de vos pièces d'identité vierge comme ça, recto verso. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement, qui s'appelle dossierfacile.gouv.fr, qui est en fait un dispositif qui vous permet de donner tous vos documents, tous les documents nécessaires à la constitution d'un dossier locatif. Le gouvernement les authentifie et ensuite vous recevez, une fois qu'ils sont tous validés, un PDF unique avec tous vos documents, avec un filigrane dessus. Vous voyez ce que c'est ?
C'est une super idée.
Une écriture en transparence.
Génial, oui. Ouais.
Avec écrit dossierfacile.gouv.fr, document réservé uniquement à la constitution d'un dossier locatif.
Trop bien.
Comme ça, ces enfoirés qui contractent des prêts en votre nom ne peuvent pas le faire à cause du fait que c'est pas des copies vierges quoi, de vos pièces d'identité. Voilà, donc j'essaye de voir du positif dans le négatif parce qu'en ce moment, je suis dans un cycle très négatif, donc j'aimerais que ça s'arrête. J'essaye donc de convoquer toutes les énergies positives.
Non, mais grave, en vrai, ce que tu as fait, c'est hyper bien. Et surtout, ça va probablement bien se terminer parce qu'à tout moment, tu ne recevais pas ce courrier de Cofidis, tu t'en rendais pas compte.
Clairement.
Et quelqu'un avait... Enfin, là, je ne sais pas du coup ce que ça va donner comme... Comme finalité, ta plainte, ce que tu as fait auprès de la Banque de France, est-ce que du coup ils vont bloquer le prêt ?
En fait, il y a. Alors oui, déjà, j'aurais pas de compte à rendre, Dieu merci. Mais ce qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est changer de carte d'identité.
Ah oui.
Pour prouver que tout ce qui a été fait avec cette ancienne carte d'identité, c'est fait,
frauduleusement.
Manière frauduleuse, exactement. Et il va falloir que si je reçois d'autres courriers, faudra que je me rende encore au commissariat pour faire un complément de plainte. Et que je vérifie dans la prochaine année, voire les deux prochaines années à venir, souvent mon dossier Banque de France. Quoi. Donc c'est très chiant.
Et quand tu as demandé ton dossier à la Banque de France, il y avait beaucoup de crédits ou c'était un seul ?
Pour l'instant, je n'ai pas encore reçu le rapport.
Ah, ok.
Donc, je ne sais pas encore, mais s'il y en a d'autres, il va falloir que je refasse des plaintes.
Et tu sais le montant ou pas du prêt ?
Écoutez, oui, je peux vous dire le montant. Le prêt s'élève à 549,99 € pour une PlayStation chez Micromania.
Arrête !
Mais non !
Voilà. Donc, en vrai, je pense que je suis tombée juste sur un petit gars qui... Bon... J'espère.
Qui est doué.
Mais qui, j'espère, n'a pas contracté d'autres trucs et qui fait des petits bails comme ça.
Il y a beaucoup d'arnaques comme ça.
Ouais, en vrai, il y a beaucoup d'arnaques. Et le pire, c'est que je le savais, puisque j'avais écouté cet épisode des Pieds sur Terre.
Ouais.
Et je savais que quand je donnais... Mais en fait, personne ne m'a dit, en fait, mets un filigrane sur tes papiers, comme ça, ils peuvent pas l'utiliser.
Le filigrane, c'est hyper malin. En plus, si tu te débrouilles un petit peu, tu peux faire ça chez toi tout seul.
Oui, bien sûr.
Ces dernières années, j'avais envoyé tellement de dossiers.
Mais c'est ce que m'ont dit toutes mes potes.
Larigo, quoi.
Et elles m'ont dit, mais ça n'arrivera pas, Ariane. On a envoyé déjà des cinquantaines de dossiers quand
mais
on cherchait les
apparts. Je sais pas si ça arrive, c'est ça le truc. Comment tu fais pour le savoir ?
Du coup, je leur ai dit, en vrai, peut-être checker, parce que si un jour vous devez vraiment emprunter et que vous êtes fiché Banque de France, là, vous êtes vraiment dans la merde. Mmh. Parce qu'il faut faire plein de démarches pour pouvoir justifier auprès de la Banque de France que c'était pas vous. Enfin, c'est une galère sans nom, quoi.
Mais c'est fou de pouvoir se retrouver fiché Banque de France sans même qu'on te prévienne,
sans...
en fait.
Oui, sans le savoir, c'est ça que
non,
je
mais
clair.
Fou. En fait, maintenant, on peut contracter des prêts, je veux dire,
oui, c'est,
bah, comme
je dis,
c'est hyper facilement.
Prêt à la consommation,
quoi. Voilà,
c'est
ça. Hyper c'est simple. Hyper simple, juste avec une copie de pièce d'identité et... Je crois qu'ils n'ont même pas besoin de justificatif de domicile, enfin quoi que ce soit.
Ça devrait
même
pas être légal, en vrai.
Non, je suis d'accord, ça devrait pas être légal.
Le crédit à la consommation, c'est tellement pousse-office.
Ouais, c'est clair.
Et du coup, je me demande en fait, si tu te rends pas compte que ces prêts, ils ont été contractés en ton nom, si tu ne reçois pas donc de courrier papier, parce que les organismes de prêts, ils envoient de moins en moins des courriers papier, tout passe par mail.
En fait, la chance que j'ai eue, c'est que moi, l'adresse qui était sur ma carte d'identité, c'est encore ma bonne adresse de chez mes parents. Donc, le mec, il a dû renseigner cette adresse comme adresse de facturation ou que sais-je. Et du coup, c'est pour ça que j'ai reçu le papier. Ouais.
Mais le mec, il savait que... Enfin, il savait que tu allais le savoir.
Ouais, mais regarde, en fait, il s'en fout.
Il s'est payé
sa
PS5. Il s'en fout. Mais
ça, rien se passer.
J'ai quelqu'un dans mon entourage qui a connu une arnaque comme ça pour, pareil, aller acheter des... Enfin, pas dans le cadre d'une loc d'appart, mais c'est quelqu'un qui s'est fait passer par mail, je crois, ou sur WhatsApp, pour le big boss de l'entreprise... dans laquelle cette personne faisait son stage. Et le big boss lui dit, mais vraiment, genre, c'était Rothschild, la boîte, tu vois, donc grosse banque d'affaires et tout. Et le big boss, donc, écrit au stagiaire en lui disant, bonjour, machin, j'aurais besoin que tu ailles chercher à la FNAC X cartes Apple, ou je sais plus ce que c'est, c'est des cartes que t'achètes, que tu payes, cartes cadeaux, ouais. Et donc... le truc était hyper bien fait, la photo du big boss, le nom du mec. Je crois que c'était via WhatsApp. Et donc, au bout de... Il lui dit, il faut que tu fasses ça sous 2 heures. C'est pour des cadeaux pour nos clients de telle banque qu'on reçoit, machin, je sais pas quoi. Le type s'est dit, c'est pour dans 2 heures. Je vérifie pas si c'est le big boss ou pas. C'est mon opportunité de plus ou moins faire bonne impression devant lui. Et il est allé acheter pour genre 400 euros de cartes et tout. Il a envoyé les cartes au mec, enfin, il a pris des photos, je ne sais pas comment il a fait, parce qu'elles étaient activées, parce qu'il avait payé, et il s'est fait niquer 400 euros. Quoi.
Non, mais c'est l'enfer.
Et des cartes pour aller acheter,
je sais pas quoi.
Ça demande
une organisation de ouf d'arnaquer de cette façon-là, surtout.
Ouais.
Ça veut dire que le mec est allé sur LinkedIn ou je ne sais pas quoi pour voir qui travaillait dans cette boîte. Mais c'est une dinguerie.
Ouais.
Waouh. Ça pour dire, soyez vigilants, vigilantes, parce que ouais, j'étais un peu dans le rush de mon truc. C'était vraiment le premier jour, c'est la première personne à laquelle j'ai envoyé mes trucs, quoi. Enfin, vraiment, j'ai la poisse de ouf en ce moment. Donc, ne le faites pas. En vrai, de toute façon, même si j'avais pas reçu de courrier, comme je sentais que ça puait, j'ai quand même demandé un rapport à la Banque de France. Donc, je l'aurais su. Là, quand ils m'enverront le rapport, ce sera écrit, en fait. Donc, je le saurais.
Mais t'as hyper bien fait, hein. Franchement, enfin...
Voilà.
T'as
donc
eu la bonne
j'ai un peu géré mon stress.
Mais on mettra l'adresse de toute façon dans la description parce que peut-être que ça va aider.
Mais
les gens
franchement,
qui nous
si
écoutent.
Ça peut aider juste une
donc
personne,
ton
mais
ton karma sera,
mon job est fait.
Sera amélioré.
Job is done.
Et d'ailleurs, si vous qui nous écoutez, quittez un appart super dans Paris.
Ouais, vraiment, écrivez-moi. Hein.
Bientôt, écrivez à Ariane.
Oh là là. Bon, voilà. Bref. Voilà, merci pour votre écoute.
Merci pour ton kiff. Et moi, je trouve que c'est hyper admirable parce que tu as bien pris les choses et tu t'es pas laissé abattre comme on peut le faire dans ce genre de situation.
Ouais.
Donc, c'est un vrai kiff cool, au fond, même
et
si c'est pas cool.
Non,
je
mais
très
vraiment, j'essaie de trouver du positif parce que je pense que c'est comme ça que je pourrais briser le cycle.
Ouais, t'as raison, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Anthony, c'est quoi ton kiff?
Mon kiff, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Hedwig and the Angry Inch, qui est jouée à Paris en ce moment, au Café de la Danse, jusqu'au 18 décembre 2023. C'est une pièce à la frontière de plein de choses différentes, c'est à la fois du théâtre et une comédie musicale, enfin un musical. Et c'est assez extraordinaire, donc ça a été présenté cet été à Avignon au Festival Off, en juillet, et là, elle débarque à Paris. C'est... l'histoire, grosso modo, c'est l'histoire d'une artiste trans qui est chanteuse de rock, un peu déchue, enfin, qui est mondialement, internationalement ignorée. Et elle raconte pourquoi est-ce que elle est un peu une artiste déchue, quoi. Et donc, en gros, elle s'appelle Hedwig et elle chante du rock. Et en gros, la pièce commence, elle est sur scène et en fait, elle explique que pendant qu'elle est en train de performer, de s'adresser au public, il y a son premier amour, enfin, l'un de ses pardon, son, quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé, qui n'est pas son premier amour, mais quelqu'un qu'elle aime beaucoup, qui est en train de performer à l'extérieur de la salle où on se trouve en tant que public et avec Hedwig. Et donc, cet amour est en train de chanter et il explose, il cartonne et elle marche pas. Elle ne fonctionne pas et elle estime que c'est une grande injustice parce que cet amour, en fait, c'est elle qui l'a beaucoup inspiré. Et donc, en gros, elle est avec son groupe de rock en train de raconter son histoire et comment est-ce que elle s'est retrouvée aux États-Unis alors que c'est une femme de l'Allemagne de l'Est et qu'en fait elle a transitionné exprès pour suivre un sergent américain qu'elle avait rencontré en Allemagne alors qu'elle était sans le sou et qu'il y avait la guerre, enfin c'était divisé entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, bref, et donc une histoire mais rocambolesque, dit comme ça, j'ai pas dit que c'était très drôle mais en fait c'est très très drôle, enfin tout ça est une comédie. Et en fait elle raconte son drame, comment est-ce qu'elle est tombée amoureuse d'un, enfin comment est-ce qu'elle a été alpaguée par un sergent américain un peu véreux qui lui dit en fait j'ai envie de t'épouser, j'ai envie de t'amener avec moi aux États-Unis mais pour cela il faut que tu transitionnes et du coup il faut que tu passes sur le billard et que tu te fasses une vaginoplastie quoi. Wow. Et en gros le truc, l'opération échoue, enfin elle fonctionne mal et donc il lui reste un bout, enfin il y a énormément de blagues autour de ça, donc c'est des blagues qui sont un peu tendues, mais en fait c'est le principe aussi de la pièce qui est un peu absurde, c'est ça déjoue un peu plein d'idées qu'on peut avoir sur les personnes trans et en même temps c'est relativement éducatif, enfin on apprend des choses, mais bon tout ça c'est aussi des blagues, hein. Il faut pas le prendre au premier degré. Et en gros donc elle quitte l'Allemagne pour suivre ce sergent américain aux États-Unis, et ce sergent américain à peine arrivé aux États-Unis dans son pays natal, il tombe amoureux d'un autre jeune garçon et il largue Hedwig qui a fait des pieds et des mains pour le suivre. Et du coup, Hedwig se retrouve comme ça aux États-Unis à devoir se prostituer et aussi continuer sa carrière de... Enfin, à continuer à écrire des textes sur son histoire et ses malheurs. Et elle rencontre lors d'activités diverses et variées, notamment du babysitting qu'elle fait pour arrondir ses fins de mois. Elle tombe sur un ado qu'elle garde qui va avoir 18 ans, hein, qui est presque majeur, qui s'appelle, j'ai un doute, Dominé Genesis, je crois, ou Tom Genesis, un truc comme ça, et qui devient une rockstar, en fait. En gros, elle accompagne cet ado un peu rebelle, un brin ténébreux, futur rockstar, et en gros, le mec est hyper inspiré par Hedwig, et il écrit des chansons inspirées par elle. Et c'est ça qu'elle raconte. Voilà, mon Dieu, mais je vous ai grave spoilé la pièce.
Désolée. Non, j'aime bien.
Mais en fait, c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est justement la mise en scène qui est extrêmement drôle. C'est aussi la musique rock jouée sur scène. C'est aussi toutes les inspirations. Donc, je vais vous donner un peu la distribution, mais c'est hyper impressionnant. Enfin, c'est à la fois un concert de rock, à la fois du stand-up, à la fois un musical. Et aussi beaucoup, beaucoup de théâtre, hein, évidemment. Et donc, le metteur en scène, c'est Dominique Guillot, sur un texte de John Cameron Mitchell, qui est une pointure de Broadway. Et un livret, enfin, la musique aussi de Stephen Trask, c'est John Cameron Mitchell qui écrit le livret. Et les artistes qui jouent la pièce à Paris, donc, et qui a été présentée à Avignon, cette distribution-là, c'est joué avec Brice Hilleré, qui interprète Hedwig, donc le premier rôle. Antea Chauvière, qui joue la bassiste, si je dis pas de bêtises. Raphaël Sanchez, Lucie Vandermeer, Antonin Olub et Louis Brusset. Et en gros, tout ce beau monde, en fait, est musicien, enfin, est en train de jouer sur scène. Et il y a des moments aussi où il parle, hein, il communique au-delà des instruments, je veux dire. Et c'est hyper intéressant. Enfin, t'as pas le temps de t'endormir parce qu'il y a du rock tout le temps. Et c'est très fun. En vérité, je m'y attendais pas. Et j'ai beaucoup apprécié. Et je sais pas quoi vous dire d'autre.
Est-ce que tu peux redire le titre de la pièce ?
Hedwig and the Angry Inch.
Justement, parce que tu dis, je m'y attendais pas. Et effectivement, comme tu nous l'as teasé, ça, sur le coup, ça a pas l'air drôle, mais j'ai l'impression que c'est super marrant.
Bah ouais, en fait, je crois que je l'ai très mal raconté. Tu t'attendais à ça ? En fait, je vous ai raconté le drame au lieu de vous raconter d'abord que c'est une comédie. Et non, je m'attendais à rien du tout. Enfin, en fait, je m'attendais à un musical. Et c'est bien plus que ça, c'est vraiment comme si tu assistais à un spectacle de stand-up, parce qu'elle s'adresse continuellement au public, quoi. Et elle interagit un petit peu avec, et aussi, elle est complètement loufoque, elle change 3-4 fois de costume, il y a beaucoup d'autodérision, c'est vraiment hilarant. Et en même temps, tout ce qui lui arrive en Allemagne de l'Est, donc avant qu'elle ne transitionne et avant qu'elle ne parte aux États-Unis, est aussi complètement tiré par les cheveux, enfin, c'est très très drôle. Ça touche le point Godwin 2-3 fois aussi, mais de manière humoristique. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Bah, c'est hyper intéressant aussi d'avoir ce genre de représentation. Il y a beaucoup de questions sur le genre, évidemment. Et justement, celle qui joue... Antea Chauvière, pardon, qui joue du coup le mari de Hedwig, le nouveau mari d'Hedwig, mais je vous raconte pas toute la pièce, mais en gros elle se remarie une fois aux États-Unis. D'ailleurs c'est même pas vraiment
ça dure combien de temps?
Ça dure que 1h40.
Ah ouais.
Mais il se passe mille et une choses, vraiment c'est n'importe quoi. Enfin en gros quand tout ce qui est joué sur scène c'est au moment présent et elle raconte son passé quoi. Et donc l'Allemagne puis les États-Unis et ses amours et ses déboires quoi. Et donc c'est en gros Hedwig il est incarné par Brice Hilleré, il était Molière de la Révélation en 2020. Et Antea Chauvière, elle joue du coup Isaac, qui est le mari de Hedwig. Et ensuite, il y a quatre musiciens, du coup, Lucie Vendremer, Louis Brusset, Antonin Olub et Raphaël Sanchez. Et c'est vraiment plein de personnes talentueuses, quoi. Et justement, je ne vais pas vous spoiler, mais...
T'as vraiment envie de nous raconter tout, j'ai l'impression.
Non, mais je vais vous dire un truc, c'est que en fait, Antea Chauvière, c'est vraiment le personnage que j'ai préféré, alors même que pendant les trois quarts de la pièce... Il intervient très très peu, et plutôt en accessoire de Hedwig. Et en fait, à chaque fois qu'il intervient, il est scotchant, quoi. Et surtout vers la fin, il m'a décollé les rétines, quoi. Et Louis.
Wow, les rétines.
Et voilà, j'ai adoré vraiment Antea Chauvière, une personne très très talentueuse. Enfin, tout le monde est très talentueux, hein. Brice Hilleré aussi, parce qu'il y a énormément de textes, c'est très verbeux. Et aussi, il faut savoir chanter, il faut savoir jouer, il faut avoir un talent comique. Du coup, ce qui implique un sens du rythme très particulier. Et ça m'évoquait, bon, je vais encore tout ramener au cabaret, mais ça m'évoquait un peu aussi du cabaret dans l'interaction avec le public par moment où, en fait, Hedwig, le personnage de Hedwig, rebondissait sur des rires du public ou des interactions particulières avec le public. Et parfois, justement, elle rentrait aussi dans le public et c'était très bien fait, quoi. Donc voilà, c'est au Café de la Danse jusqu'à la fin de l'année 2023. Et c'est vraiment chouette, quoi. Je sais pas si vous avez des questions.
Ah, t'as bien donné envie. Hein.
Non, mais ça donnait super envie, vraiment.
Et toi, c'est quoi ton kiff, Fanny?
Oh là.
Le premier kiff du reste de ta vie.
Ouais. Alors, mon kiff, ça va être un peu en lien avec la question de tout à l'heure. Parce que, bah, en fait, tu sais déjà, Marie-Stéphanie. Parce
je connais
que,
ton kiff.
Parce que quand on a commencé à travailler ensemble, bah, je dis, ah, j'aimerais bien, si je fais un kiff, parler de ça. Eh bien, je vais vous parler de quelque chose qui y a déjà plein de gens. Peut-être que quelqu'un en a déjà parlé dans le podcast, le bullet journal.
Ma vie.
Allez. Voilà. C'est... Alors, le bullet journal, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement le fait d'avoir un carnet, ou même il y en a qui font ça en ligne, et c'est un système d'organisation de vie, et ça peut être à plein de choses différentes. Mais moi, vraiment, j'en parle parce que ce week-end, et là, en fait, à la fin du mois de septembre, je vais changer de bullet journal. Alors là, sous les yeux, c'est pas mon bullet journal perso, c'est mon bullet journal de boulot, mais là, mon bullet journal perso, j'arrive à la fin, j'arrive aux dernières pages.
Vous voyez pas quand même, mais vous voyez pas, vous qui nous écoutez hein, dans le podcast, mais pourquoi on a parlé du bullet journal ensemble la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est parce que Fanny a un carnet qui est assez, comment dire, parfait. Vraiment, genre...
Bah, là, c'est mon
tout
carnet
est très bien tenu.
Et encore, c'est mon carnet de travail où vraiment, là, c'est un carnet vierge. Et en fait, la page de gauche, c'est à chaque fois ma semaine, ce que j'ai à faire. Page de droite, c'est mes notes. Et parfois, juste, j'ai fait des pages en plus quand j'ai besoin.
Mais c'est hyper clean. Il n'y a pas de rature, il est parfait.
Alors, mais parce que aussi, je mets beaucoup de choses au crayon. Et tu même dans le bullet journal, mon perso, je mets beaucoup de choses. Je mets beaucoup de choses d'abord au crayon. Et après, enfin, comme ça. Et après, je gomme et je mets au propre si je veux. Là, ça va être quelque chose parce que là, le perso que j'ai, ça clôt, c'est la fin de un an et demi de vie.
Waouh.
Ça fait 6 ans que je fais ça. Et
ça
vraiment,
fait
en fait.
6 ans.
Ouais, ça fait 6 ans. Même plus parce que c'était avant que je commence le podcast. Donc, c'est depuis septembre 2016. Que je fais du bullet journal.
C'est dingue.
Je peux dire que je crois que ça a changé ma vie.
Ah ouais?
Ah oui, parce que bah, j'étais énormément procrastinatrice. Vraiment, à toujours remettre les choses en main, à ne pas être assez organisée. Et je pense que même maintenant, alors je suis en freelance que depuis maintenant 3 ans, je pense que vraiment ça m'a aidée à faire ce travail-là. Alors, j'étais déjà quand même assez organisée à la base, j'aimais tenir des carnets, je le faisais, mais cette façon-là... qui, voilà, ça m'a vraiment changé ma vie. Et là, le côté perso de changer de carnet. Alors, en plus, bon, là, l'année écoulée, je me suis séparée de mon mec avec qui j'étais depuis 11 ans. J'ai eu des ruptures familiales, des ruptures amicales. Wow. Donc, il y a eu plein de choses. Et vraiment, mon bullet journal perso, je le conçois comme vraiment bah, quelque chose pour me rappeler ce que je veux faire. Mais c'est aussi, et là, c'est mon côté historienne, c'est un peu mon archive de vie. Vraiment, je le conçois dans quelques années. Eh ben, c'est ma propre archive que je fais. Donc, comme toutes les archives, c'est subjectif. C'est moi ce que j'y mets. Alors, en général, j'y mets le positif. au début, je me disais, allez, je mets que le positif dans le bujo. Donc, bullet journal, bujo.
Bujo.
Mais maintenant, j'y mets parfois... Alors, attention, il y a du code couleur. Comme dans, comme dans le bullet journal de boulot, je mets des codes couleurs. Donc, à chaque fois, quand j'ai un petit... Bah, un peu comme vous, quand j'ai un petit kiff, bah, je rajoute en fin de journée, je la note, je mets des... last week-end, j'ai fait... Alors, j'ai une copine, en plus, avec qui j'en fais, j'ai commandé des stickers.
J'adore.
Parce que je ne sais pas dessiner.
Tu parles à mon cœur.
Hein. Ah, je te le dis. On va faire des séances ensemble si tu veux. Mais vraiment, là, les stickers bullet journal. Alors, je commande sur Etsy. Etsy, c'est la vie. Et que des créateurs ou des créatrices en France ou en Europe, où je sais que ce n'est pas du dropshipping, ce n'est pas des choses qui sont achetées en Chine et qui sont revendues comme ça. Non, c'est que des personnes qui le font eux-mêmes. Comme ça, j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'art parce que moi, je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas. Voilà. Mais c'est vraiment quelque chose que je fais avec l'âme. Et c'est maintenant, je crois que je ne me pense pas. C'est impensable pour moi de ne plus faire du bullet journal. Ah mais vraiment, j'en serais incapable et même ça me structure ma vie, ça me structure tout. Mais ça reste quelque chose. Alors moi, je l'ai souvent sous les yeux comme ça, bah, par exemple pour me rappeler que là, bah, par exemple avant de venir, me dire ah oui c'est vrai que je m'étais marqué qu'il faut que je fasse une lessive, donc j'ai lancé une lessive. Mais c'est vraiment comment me délester la tête et avoir une conscience de papier. C'est vraiment ça en fait, de sortir les choses de ma tête et être sûr de ne rien oublier. Et vraiment là le côté ben et là mais le nouveau alors je prends moi attention alors là il y a différentes écoles sur la marque que j'utilise le type de carnet alors moi c'est les Leuchtturm que la j'utilise base. Voilà ils sont magnifiques à petits points ils sont beaux et vraiment alors ça c'est pas bien mais j'ai acheté 3 carnets de couleurs différentes avant de choisir en fait j'en avais déjà acheté 2 un rose un bleu et là finalement c'est un peu comme sur le canapé sur lequel vous êtes assis c'est un peu cette couleur là bleu clair très très clair très pastel parce que celui d'avant était parme donc je me suis dit que ça enchaînerait bien donc je me suis imaginé bah tu vois dans ma bibliothèque du futur quand ils seront tous alignés comme ça
et que tu pourras replonger dans tes archives.
C'est ça. Parce que tu gardes les anciens.
Bien sûr.
Mais et tu les relis.
Non, mais là, je les relis pas. Bon, en plus, là, récemment, de m'y plonger, ça me rend un petit peu triste parce que vu ma séparation l'année dernière, bref. Mais c'est la vie qui avance. Mais là, vraiment, là, je symboliquement, j'ai OK, bah là, ça fait un an que je suis séparée. Bah, ça va me faire beaucoup de bien de aller, bah, je ferme ce carnet. Je ne le jette pas, c'est ma vie, c'était une très belle vie. Ma vie va finir de toute façon, mais tout le monde va bien. Hein. Et là, de commencer le nouveau, c'est vraiment... Oh, ok, on avance. Mais là, j'ai tous mes carnets, mais même... Et là, je vais retourner chez ma grand-mère dans pas longtemps. J'ai tous des carnets, mais par exemple, quand je faisais des colos, quand j'étais ado, j'écrivais un petit carnet à chaque fois. Ils sont tous chez ma grand-mère. Mais non, mais bref, ça un jour je vous en reparlerai. Mais voilà, et c'est vraiment de faire ça, c'est le côté archive de vie, le côté archive personnelle, me rappeler, ça fait plein d'usages. Et maintenant, mais là où que je. Alors, j'ai pas pris mon bougeux perso, j'aurais dû le prendre peut-être aujourd'hui pour vous le montrer, mais je vais partout avec. Et tu vois, je prends ce que je préférais perdre mon ordi que de perdre mon bougeux.
Ouais. Ah ouais.
Et je fais toujours hyper. C'est ma hantise, c'est un jour de renverser des trucs dessus.
Je comprends.
C'est vraiment ma peur dans la vie. J'ai plus peur qu'on me vole ça qu'on
un
me
jour
vole...
on m'a volé dans le métro le mien. J'étais dégoûtée.
Mais oui.
Parce qu'en fait, le mien était assez petit dans le format et il avait une couverture qui aurait pu s'apparenter à un cuir de portefeuille en fait. Donc je pense que la personne qui a regardé, j'avais un sac à dos, qui a regardé dans mon sac, s'est pas posé 1000 questions, il était au-dessus, ça ressemblait un peu à du cuir, il l'a pris et voilà quoi. Et j'étais dégoûtée.
Et t'as senti le vol?
Non, pas du tout, je m'en suis rendu compte après.
C'est pas juste toi qui l'as oublié quelque part?
Non, vraiment, c'était parce qu'après j'ai enlevé mon sac de mon épaule, il était ouvert et je me suis dit oh non. Et en fait, j'avais encore
mon téléphone. Est-ce que vous mettez vos noms dessus avec votre numéro de téléphone?
Bah oui.
Putain, il aurait pu rappeler quand même,
c'est
le
drôle,
mec.
J'en parlais avec la team vidéo l'autre jour et elles me disaient toutes qu'elles avaient toutes gardé leurs agendas depuis le collège.
Ah oui,
et
moi
tout.
Aussi.
C'est leurs archives personnelles qu'elles sont trop contentes de se replonger dedans. Mais moi, je garde rien, quoi.
Trop drôle.
Je sais même pas où je garde pas mes carnets.
Moi, c'est une déformation professionnelle. Ma mère a tellement tout gardé. Alors, même, elle me raconte que son grand-père, et là, je me dis, c'est génétique. Là, je descends de gens comme ça. Son grand-père avait une cabane dans le fond du jardin avec des boîtes. Avec des étiquettes, genre boîte, bout de ficelle, boîte, bout de trucs, vraiment trucs qui ne savent pas ce que c'est, mais que des choses comme ça. Donc je me dis, ok, je descends de gens comme ça. Hein? Et moi, ce n'est que ça. Mais aussi, c'est un vrai loisir. C'est vraiment, moi, me fait du kiff de faire mon bugeot et tout ça. Et voilà, là, j'ai acheté des stickers, mais je me dis, j'ai un loisir qui ne coûte pas trop cher non plus. Genre, faire un craquage, c'est 30 euros. Là, je fais, oh, c'est la folie. Moi, j'ai payé 30 euros de stickers. Il y en a, ils s'achètent des montres ou des voitures.
Ouais,
moi,
ouais.
C'est juste des stickers.
Oui, c'est
ça
plutôt
va.
Sain, quoi.
C'est ça, c'est assez sain, c'est assez raisonnable. Donc, ça va. Et c'est pas, voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup, beaucoup de bien.
Ouais, c'est thérapeutique.
Ah mais exactement. Totalement. Mais vraiment, ouais. C'est genre j'écris ma vie, mais...
Et alors
mais...
ouais, justement, qu'est-ce ouais. que tu mets dedans ?
Alors, bah, je mets dedans une to-do list quotidienne. Donc moi, je fais du jour. Vraiment, bah, là, par exemple, je fais un peu une semaine en avance. Mais je dis, bah voilà, bon, j'ai tel jour à faire. Là, j'organise un peu dans ma tête tout ce que je dois faire dans la semaine. Et bah, j'écris des choses, bah, des rendez-vous. Et là, bah, là, avec tout ce qui m'est arrivé récemment, bah, j'avais jamais fait ça encore. Bah, j'ai pris une page et vraiment en mode journal intime, où j'ai écrit des choses parce que même si je dis plein de choses à ma psy, là, j'avais besoin d'écrire des choses. Et même j'ai écrit des choses à la Fanny du futur. Ah non, mais c'est vraiment là, j'en avais besoin. Et donc là, voilà, là, ça me fait beaucoup de bien mentalement de me dire, ok, celui-là, il va se finir. En plus, vraiment, là, c'est tellement satisfaisant.
Ouais, je suis d'accord.
C'est au mois de septembre, oui, on peut dire, oh, bah, c'est pas une bonne année, non. Mais là, le mois de septembre va se terminer à la dernière page. Il me va me rester juste une page. Et là, je vais faire du coup, bah, moi, en fin septembre 2023, je suis comment ? Et
donc, une seule page ?
Oui, alors, un résumé. mais ça veut dire que aussi dans le prochain Bugeot, bah, j'ai déjà commencé. Le prochain Bugeot, j'ai déjà commencé. Mais moi, en octobre 2023, comment je suis ? Et pour pouvoir, en fait, justement, me sentir évoluer, de dire, ah, voilà, on peut en faire plein d'usages différents. Il y en a qui font des choses très, très simples, il y en a qui font des choses très, très décorées. Moi, ça évolue, je suis très par couleur. Genre, chaque mois, il y a une couleur.
Pareil, je pense que c'est une dinguerie.
Oh là là, on va faire plein de choses. Ouais. Mais voilà, donc c'est mon kiff. Et là, vraiment, ça m'a fait du bien ce week-end de dire, allez, là, genre, j'ai fait une page anniversaire, les anniversaires des gens que j'aime bien. Je les note comme ça, de faire des choses.
Et comment, t'as un sommaire après à ton carnet ?
Je me fais un sommaire. Bah, dans les Leuchtturm, en plus, ils font des pages sommaires trop au début. Bien. Donc voilà, après, et puis il y a des petites... Bah, comme pour ce carnet-là, d'ailleurs, que là, c'est Marc Rodia. Ils ont des petits marque-pages. Ouais. Donc c'est très pratique et tout ça. Mais c'est ma vie. C'est vraiment... comme je vous disais, je me sentirais sans. Si j'avais plus ça, là vraiment, je me dis, mais ok, je fais quoi de ma vie ? Comment je m'organise ?
C'est un bout de toi, quoi, en fait.
Ah, c'est totalement un bout de moi. Et vraiment, tu vois la différence. Quand tu achètes, ils ont à peu près, voilà, ils font 2-3 cm. Maintenant, il fait deux fois plus avec tout ce que j'ai mis dedans. Je colle quand je vais en vacances. Je passe mon temps à prendre tous les prospectus partout de où je vais pour pouvoir après coller dans le bugeot.
Trop bien.
Un peu comme du scrapbooking d'une certaine façon. Ouais, mais c'est vraiment même mon image mentale que. Bah, tu vois, on parlait de la bibliothèque, c'est vraiment. Donc c'est vraiment en fait un épisode de présentation de moi en fait aujourd'hui.
J'adore. C'est trop cool.
Donc voilà.
Et une grande question que je pense beaucoup de personnes se posent certainement, beaucoup de personnes qui aiment écrire ou qui ont besoin d'écrire. Comment est-ce que tu arrives à te trouver des... Enfin, est-ce que tu as un rituel d'écriture particulier ? Ou alors, est-ce que tu écris un peu quand tu veux ? Enfin, comment tu arrives à trouver ta routine d'écriture ?
Parce que j'écris pas... Enfin, là, mon bugeot, c'est un peu tous les jours. Et puis même quand je travaille de chez moi, je l'ai sous les yeux ouverts. Parce que c'est un peu un mémo. C'est vraiment, au lieu d'avoir des post-it, j'ai un bugeot.
Ouais.
C'est vraiment ça. Et je marque des choses dedans au crayon. Et quand j'écris des choses personnelles en plus, là, c'est vraiment totalement à l'instinct. C'est même pour disposer les stickers, pour disposer les choses sur la page, c'est vraiment, j'y vais totalement à l'instinct comme ça.
Mais en tout cas, c'est un besoin quotidien que tu as. Enfin, il ne se passe pas genre, par exemple, une journée où tu ne vas rien écrire dedans.
Non, alors parfois, bah, par exemple... Quand j'ai plein de choses à faire, quand déjà ma journée est très remplie, j'ai moins ce besoin d'introspection. Quand je suis prise dans le flow des journées et tout, je n'y suis pas tout le temps. Mais il y a toujours un moment où je vais y revenir.
Ouais, 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 je comprends.
Et il y a eu une fois dans ma vie où j'allais très très mal, où bah, il y a eu 3 jours sans. Il y a eu 3 jours où je n'ai pas fait le bugeot dedans, bah, du coup ça a un sens. Mm-hmm. Et je sais que ces 3 jours, je sais ce qui s'est passé ce jour-là. Et je, voilà, avec le recul, je fais oui, mais ça avait du
sens. C'est pas une absence d'information non plus, quoi.
Non, mais voilà, et c'est... Et bref, c'est vraiment même, je me dis, je sais pas si un jour j'ai Alzheimer ou quoi, mais c'est vraiment, bah, c'est un petit peu de moi, parce que, et c'est aussi le côté matériel qui me plaît beaucoup, parce que j'ai des amis qui le font en ligne, qui ont genre un doc drive, ils font
ouais,
ça,
ouais, ouais.
Mais moi c'est le côté matériel même pour, ça m'aide à m'organiser, ça m'aide à concrétiser les choses, j'ai besoin.
Il y a un truc avec l'acte d'écrire aussi, hein,
Mais après j'aime
ça
bien
aide
écrire.
À mémoriser, ouais.
Oui, ça aide à mémoriser, moi j'aime bien mon écriture, c'est satisfaisant pour moi d'écrire.
C'est thérapeutique aussi.
Ah mais totalement, mais là vraiment, tu vois, je pourrais plus m'en passer, mais même c'est mes mots, parce qu'en fait je suis très très tête en l'air. Mais voilà, et ça m'aide même, je sais pas, genre je note mes règles dans mon bugeot, je note des choses comme ça pour mon souvenir. C'est vraiment ma mémoire et ma conscience de papier.
Moi, tu vois, j'ai une note dans mon téléphone qui est un peu ma tout doux vide cerveau, tu vois, où vraiment, dès que je pense à un truc, je le note parce que sinon, j'ai une mémoire de poisson rouge. Enfin, moi, je suis le genre de personne à partir au métro, me rendre compte que j'ai oublié un truc chez moi, revenir chez moi, faire autre chose et puis repartir sans ce que j'ai oublié, tu vois. Vraiment, c'est l'histoire de ma vie. Et donc, je note dans cette petite note sur mon téléphone, parce que c'est ce que j'ai le plus rapidement à portée de main. Et tu disais tout à l'heure que c'était aussi ta to-do, ton bujo, et donc tu notais tout ce que tu avais à faire. Est-ce que ça ne te fait pas cet effet-là, toi aussi de... Enfin, pardon, je n'ai pas fini l'information que j'étais en train de donner. Tu vois, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Moi, l'effet que ça me fait, cette note, en fait, dans mon téléphone, c'est que du coup, je vide mon cerveau. Effectivement, je me sens plus légère, mais j'ai tendance à ne pas y revenir.
Alors que moi, je l'ai tout le temps ouvert sous les yeux. Moi, il est là, même parfois. Genre, je prends en photo mon bujo avant de sortir de chez moi, parce que je préfère le laisser en sécurité chez moi quand même en général.
Je t'adore.
Du coup, comme ça, j'ai la photo du bujo dans mon téléphone de « Ok, c'est ce que j'ai à faire ». Mais il y a un truc aussi, et là, c'est là peut-être où je suis vraiment folle et hyper égocentrique, mais je me dis, si ça se trouve, dans 50-60 ans, il y a quelqu'un qui fera un mémoire dessus en mode
j'adore
écriture de soi en 2023 et tu vois vraiment parce que je passe mon temps à parler à des gens qui font des mémoires d'histoire d'histoire médiévale mais en fait vraiment je me dis bah vu que maintenant on fait on tout en numérique jamais. En fait les archives des gens aujourd'hui bah il y a peut-être que des gens comme moi et Ariane du coup qui auront ça et qui pourront témoigner de qu'est-ce que c'est la vie des gens en 2023
mais là récemment enfin non c'était pas si récent l'an dernier on sur Mademoiselle, rubrique témoignage, on avait interviewé des gens qui tenaient à leur journal intime et j'avais une amie qui avait témoigné et c'était vraiment magnifique. Mais Marie-Stéphanie, pour revenir à ce que tu disais sur ta to-do qui est dans ton téléphone, bah effectivement, Fanny, ça dit tout l'intérêt d'avoir quelque chose de matériel sous les yeux. Et en fait, à un moment dans ma vie, je faisais comme toi, j'avais ma to-do sur mon téléphone et j'y reviens jamais, effectivement. Alors que quand c'est physiquement immanquable devant tes yeux... Sachant que aussi les téléphones en fait c'est ça qui est hyper vicieux avec les applications aussi c'est que bah quand tu le déverrouilles le temps que tu le déverrouilles tu sais plus pourquoi t'y aller.
C'est clair, c'est
tellement vrai.
C'est vraiment
et
vrai.
C'est aussi pour ça que par exemple moi je réponds jamais aux gens qui m'écrivent sur WhatsApp ou sur Instagram ou sur Twitter. Je réponds qu'aux gens qui me SMS parce que ou qui m'appellent parce qu'en fait les messageries des applications en interne c'est fait pour te divertir et donc du coup tu vas vouloir répondre à un message sur Instagram et le temps que tu ouvres Instagram d'abord on va t'afficher le fil d'actualité des gens et tu vas oublier d'aller voir les DM ou alors après avoir répondu à ton message privé et ben tu vas retourner sur le fil et tu vas perdre le fil de ce que tu faisais ça c'est des attrape attention enfin c'est
vrai. Oui c'est pour ça tu sais que ton seul endroit où tu communiques avec les gens, ça va être par SMS.
Voilà.
Toi, tu le sais dans ta tête. Les gens le savent ou pas?
Les gens le savent. De toute façon, je leur réponds pas. Donc,
ils me déduisent.
Ils finissent par m'envoyer un SMS. Enfin, ouais. Les gens qui m'envoient des vocaux sur Instagram, je leur réponds pas, quoi. Ou alors, vraiment, quand je suis de bonne grâce et que j'ai un dimanche et j'ai rien à faire ou j'ai un RER dans une demi-heure, là, je vais répondre aux gens qui m'ont DM ou qui m'ont WhatsAppé, quoi. Mais j'ai ma to-do, sous les yeux, dans un carnet physique comme toi, Fanny, parce que sinon, j'oublie tout. Enfin, j'oublie vraiment tout.
Mais moi, il y a aussi un truc hyper important et c'est même la base du truc qui fonctionne. Mais moi, le kiff de cocher quand j'ai fait un truc. Mais même, je vais parfois, par exemple, là, je fais donc le côté tous les jours et je fais par mois aussi. Genre, je fais une double page sur le mois. Et là, il y a des choses. Là, on est bientôt à la fin du mois, mais je me dis, oh, faut vite que je me dépêche de le faire. Alors, c'est pas grave, au pire, je reporte. Mais par exemple, ça m'a motivée, et je pensais à ce que tu disais tout à l'heure, à là, prendre rendez-vous pour refaire ma carte d'identité que j'ai perdue il y a 3 mois.
Ah oui!
Et là, vraiment, parce que bon, là, cet été, c'était impossible d'avoir des rendez-vous parce que voilà, tout le monde prenait. Mais là, vraiment, je me suis dit, je l'avais mis dans mon bujo. Il faut que je le fasse. Donc, et même parfois.
Et tu culpabilises pas, du coup? Ça te fait pas culpabiliser en mode, l'avais mis.
Ça
je
me
l'ai pas
motive.
Fait.
Alors, après, parce que dans le bujo, soit je coche quand je l'ai fait, donc une croix, vraiment, une croix. Soit si je l'ai pas fait, je fais une petite flèche. Je fais une petite flèche en mode, à faire. Ah oui. Et limite, c'est juste un rappel de ah, ok, ça, je l'ai pas
la
fait.
Mais
je vais être du style, par exemple, là, hier soir, je m'étais dit, bon, dimanche, je m'occupe de moi, je me fais un soin du visage. À 23h30, j'ai fait mon soin du visage. Je me suis dit, non, mais je l'avais marqué dans le bujo. Je vais le faire. Je vais être contente de l'avoir fait.
Et t'étais contente de l'avoir fait.
J'étais très contente de l'avoir fait. Donc, il y a vraiment le côté satisfait. Parce que voilà, il y a des gens pour qui ça peut ne pas marcher. Et c'est pas pour tout le monde. Parce que clairement, je sais que, faut aimer tenir un carnet. Faut avoir ce côté être régulier. Mais le côté cocher, moi, marche tellement sur moi. Mais c'est effrayant.
Bah, c'est satisfaisant de rayer ou de cocher des choses. C'est
ça.
Vrai. Ouais.
Moi, ça a vraiment marché à une période de ma vie où j'étais grave pas bien. Et en fait, j'avais l'impression de... Non, c'est pas que j'avais l'impression, c'est qu'en fait, j'arrivais à rien faire. J'avais l'impression d'être globalement immobile dans ma vie, mais pas que dans ma vie de tous les jours, vraiment dans ma vie où j'allais plus trop à la fac, j'arrivais plus à bosser, je rendais pas mes trucs, enfin voilà. Et quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment donné une impulsion pour me mettre en action. Et juste le fait de, tu vois, organiser ma semaine, organiser mon mois. Même si parfois, il y a des journées, je mettais des trucs de merde. Hein. Je mettais genre manger mon petit-déj. Mais vraiment, parce que globalement, il y a une période de ma vie où je faisais... Enfin, quand on a 6 heures de cours par semaine à la fac, bon, voilà.
Mais
quoi.
Je l'ai commencé dans le même contexte que toi. Je l'ai commencé...
Et ça marche... Enfin, en tout cas, pour moi, ça a bien marché. Et ça permet de petit à petit sortir de cette espèce de léthargie ou... qui en fait te tire vers le bas parce que t'as l'impression de rien faire et en fait t'as envie de rien faire et du coup tu fais rien et en fait en faisant ça petit à petit, ne serait-ce que l'acte de décorer ton truc et d'en prendre soin et surtout que moi, ça m'a aussi permis de un peu suivre mon mood parce que je m'en servais pour ça, je mettais mon humeur, mon niveau de fatigue et tout et après, je sais pas, ça m'a vraiment sorti d'une période d'immobilisme.
Moi je mettais des fois juste sortir de chez moi.
Ouais, voilà.
L'objectif de la journée, c'était de trouver une raison pour sortir de chez moi. Parce que moi, c'était après une période où j'avais pas eu un job, où vraiment j'avais passé genre 3 entretiens pour un boulot, où on me l'avait fait ultra miroiter et tout ça, et je l'avais pas eu. Et ensuite, pendant 15 jours, je suis pas sortie de chez moi. Vraiment, comme j'étais au chômage, j'ai eu vraiment un truc où je jouais aux jeux vidéo toute la journée. Vraiment, pendant 15 jours, je n'ai rien fait. Et j'ai vu une vidéo qui parlait de ça. Je me suis dit, allez, go, on fait ça.
C'est marrant, vous avez toutes les deux la même, ce moment d'impulsion.
Moi, c'est vraiment la vidéo disait, ça convient autant pour les gens qui ont trop de choses à faire, qui ont besoin de s'organiser, que ceux qui n'ont rien à faire. Et moi, je me suis dit, je n'ai rien à faire. Et maintenant, je suis dans l'autre catégorie. J'ai trop de choses à faire et j'ai besoin d'organiser.
Comme quoi, donc, c'est utile pour tous les moments de la vie.
Exactement.
Voilà. Mais après, effectivement, je sais pas, faut quand même aimer tenir quelque chose parce que j'ai des amis qui ont commencé, qui disent, ça m'a saoulé, au bout de 2-3 mois, ils arrêtent.
Après, tu peux le faire de manière très minimaliste, hein. De faire des fleurs et des trucs. Enfin, tu vois.
Et des stickers que tu commandes sur Etsy.
Ouais, voilà.
Et des bannières et des bannières et des choses comme ça.
Le mec à la base qui a inventé ce système-là, c'est vraiment un stylo noir, des points et des colonnes. Et voilà, quoi. Ouais.
Et après, tu en fais ce que tu en veux. Voilà. Quoi. Non, mais trop intéressant. Moi, j'ai un carnet dans lequel j'écris, pour le coup, qui est un peu mon journal intime, entre guillemets. Et c'est pour ça que je te posais la question. Moi, j'ai énormément de mal. Je sais le bien que ça me fait. Et j'ai beaucoup, beaucoup écrit dans les périodes de ma vie où ça allait pas fort, justement pour vider mon sac. Il y a un vrai effet thérapeutique parce que moi, vraiment, ça m'a permis de mieux dormir la nuit, le fait d'écrire. Mais aujourd'hui, et je sais que ça me fait du bien, tu vois, mais j'ai trop du mal à me trouver ce moment où justement c'est ton moment à toi où t'écris et je trouve ça hyper séduisant l'idée de dire que tu l'as toujours ouvert à côté de toi parce qu'au final ça le rend beaucoup plus accessible et ça le désacralise un peu de ce fameux moment qu'on cherche tous quand on a envie de...
Et en plus moi j'hésite pas à écrire dessus au crayon papier. Comme ça, il n'y a pas le « Ah, je vais raturer ». Non, je mets au crayon papier. Vraiment, je mets des petites notes et tout. Et au pire, je les enlève. Ouais. Donc, il y a moins le... Enfin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais j'ose pas écrire dedans ». Commence au crayon papier. Comme ça, tu as moins le flip. Et après, si tu veux, tu passes au stylo.
Ouais.
C'est trop bien. J'adore ce kiff.
Eh bien, je suis contente de vous en avoir parlé.
Et alors, il me semble que tu en as parlé dans un épisode d'un podcast aussi.
Mais oui, oh là là.
Il est temps de renvoyer les auditeuristes vers cet épisode également.
En fait, j'ai déjà fait un podcast où je parlais de bullet journal. Alors, c'était il y a 3-4 ans maintenant, donc peut-être que je disais des choses différentes. J'ai un petit podcast. Alors, attention, c'est un peu mon terrain d'expérimentation. Il y a des choses bizarres dessus. le podcast s'appelle Multimorphose. Et l'idée, c'est que, tout simplement, ça change de format, de sujet, de tout à chaque épisode.
Okay.
Ça n'aura jamais la même durée, jamais les mêmes gens, jamais le même concept. C'est vraiment... Alors maintenant, clairement, ça fait peut-être un an qu'il n'y a rien qui est sorti dessus. Et à la base, c'était aussi pensé comme collaboratif. Donc, s'il y avait des gens, il y a des gens qui ont fait des choses très sympas dessus, vraiment. Je l'ai commencé, pareil, je crois, il y a 6 ans, c'est un vieux truc. Mais il y a des choses dont je suis très fière. Et donc, j'avais fait un épisode sur le bullet journal. Je mettrai en lien dans la description.
Trop cool.
Où on faisait du bullet journal en même temps, d'ailleurs. On avec une copine, on faisait du bullet journal et on en parlait. On parlait de ce qu'on faisait. Ouais. On collait des stickers en même temps. Il y a presque de l'ASMR sticker.
Ah, on adore.
Et toi, Marie-Stéphanie, c'est quoi ton kiff ?
Alors, moi, mon kiff, c'est une série, messieurs, dames.
Ouais.
Et c'est une vieille série, elle n'est pas tout à fait récente. Elle s'appelle The Fall. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est.
Non, mais moi, j'ai aucune rêve, de toute façon.
Moi, je connais pas
ce principe-là.
Eh bien, tu auras une rêve à la fin de cet épisode. Tu connais pas ? Non ?
Non, je connais pas.
Eh bien, moi non plus, je ne connaissais pas avant de la regarder, vous allez me dire. Donc, il est toujours temps.
Oui, logique.
Non, tu peux entendre pas d'une série avant de la regarder.
The Fall. Alors, il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ça faisait longtemps que je n'avais pas binge-watché une série, et elle, je l'ai vraiment binge-watché. Il y a quelques temps, j'avais envie de regarder une petite série, on va dire, série criminelle, un thriller. Et donc, j'ai cherché sur Google, voilà, quelle série de ce type-là je pourrais trouver sur Netflix, et je suis tombée sur The Fall. Donc c'est une série qui date de 2013, une série britannique, et qui a été diffusée en France à partir de 2014. Une série créée par Alan Kurbit, et dans laquelle joue Jamie Dornan. Donc Jamie Dornan, non quand même, t'as la ref.
Mais regarde pas comme ça, parce que vraiment...
T'as la ref, Jamie Dornan, c'est Christian Grey dans 50 nuances de Grey.
Ah, là, j'ai la ref.
Voilà. Donc je vous dis ça comme ça, et là vous vous dites, quoi, une série policière, un thriller avec Jamie Dornan, ça ne va pas du tout. En tout cas, c'est la réaction qu'a eu Maya quand je lui ai parlé de cette série, elle m'a vraiment regardée bizarrement. Et donc il y a Jamie Dornan dedans, et une autre actrice qui s'appelle Gillian Anderson, et que vous connaissez.
Et dans Sex Education, c'est ça?
Exactement, ouais. Dans Sex Education, elle est également la partie féminine du duo des X-Files.
Oh,
voilà,
wow.
vieille série. Moi, mes parents adoraient les X-Files et du coup, j'ai en tête cette ref-là. Et elle a joué dans quoi? Est-ce qu'elle a joué d'autres? Elle a joué Margaret Thatcher dans The Crown.
Mais oh oui!
Et alors ça, j'avais pas du tout capté que c'était elle.
Elle est incroyable, dans elle est The Crown, si géniale cette actrice.
Mais incroyable. Donc, super actrice, acteur, bon, sur le coup, on le voit plus effectivement dans un rôle de mec sexy dans un film, dans une romance adaptée en film. Sexy, bon, on peut
faut
en dire ce
vite,
qu'on
faut
veut.
Faut le dire vite, hein,
voilà.
Quand même.
C'est un autre débat. Et cette série, eh bien, je ne vous tisse pas plus, elle est incroyable. Vraiment. Si vous aimez les séries policières, les thrillers psychologiques, il faut que vous la regardiez vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi. Le pitch est le suivant. C'est une...
T'es vraiment journaliste,
ça
toi.
Se passe... Elle se moque. Oui, oui, c'est mon métier, oui. Ça se passe en Irlande. Et ça se passe à Belfast, plus précisément, où un serial killer... on ne sait pas encore que c'est un serial killer, mais où il y a des meurtres qui sont perpétrés sur des femmes. Donc, au bout de 3-4 semaines d'investigation, la police locale décide d'appeler à la rescousse Gillian Anderson, donc, qui incarne dans cette série la détective superintendante Stella Gibson. Donc, elle vient de Londres et c'est vraiment la nana hyper capée. Au bout de 2 jours, elle arrive et elle dit « Ce mec, enfin, ces meurtres, c'est des meurtres qui sont liés. Il y a un serial killer derrière et il y a un profil. » Donc, elle fait vraiment le lien entre les différents meurtres. Il y a un profil des femmes qui l'assassinent. Donc, elles sont toutes jeunes, blanches, brunes, qui réussissent dans la vie. Et il les tue toutes de la même manière. Donc, je vous passe les détails, mais vous pourrez regarder la série si vous en avez l'envie. Et en fait, ce qui est particulier dans cette série, c'est qu'on suit, on sait qui est le meurtrier dès le départ.
Okay.
Ah. Voilà, et donc le meurtrier, c'est Jamie Dornan. Donc, assez surprenant comme rôle, et pourtant, parce que vous allez avoir la suite, assez surprenant, mais on sait directement, en fait, on le voit commettre les meurtres, donc on est vraiment avec lui, c'est ça qui est vraiment perturbant.
Ça doit être dérangeant, ouais.
On est avec lui, et on est aussi avec la police qui enquête sur les meurtres, et donc vraiment, on a toutes les infos, on est là, mais putain, mais vous voyez pas que ça, et ça, et ça, et tout.
T'imagines devant ta télé, Marie-Stéphanie.
Ah, mais vraiment.
Mais voyons,
enfin.
Mais vraiment, j'étais là. Ok, j'arrive, les gars. Belfast, premier avion. Et j'ai même réussi à mettre mon mec dedans au bout de littéralement 10 minutes. Il a regardé 10 minutes de l'épisode et il m'a dit, mais ça a l'air incroyable. Et donc, on a regardé
il
ensemble.
Était debout, il s'est assis. C'est ça. Il a fait bon, ok, je reste.
Voilà, je reste finalement. Donc on suit cette enquête pendant 3 saisons et moi j'avais envie de vous donner plusieurs bonnes raisons d'aller la regarder cette série. La première, c'est évidemment, enfin d'abord pour l'actrice principale, Gillian Anderson.
Dire Jamie Dornan.
Non, mais c'est également une de mes raisons et pas pour celle auquel vous pensez. Donc d'abord Gillian Anderson parce que c'est une actrice super et qu'en plus elle tient un rôle ultra féministe. Donc, mesdames, messieurs, nous sommes en 2013. La série a été tournée en 2012. Ce type de personnage est hyper rare. Et quand je dis qu'elle est méga féministe, c'est que elle a ce rôle d'habitude dans ce genre d'affaires. On voit des enquêteurs mecs, voilà, qui probablement ont des conquêtes un peu à droite à gauche, s'en foutent. Et elle, enfin, elle pèse vraiment. Tu sens que déjà elle pèse dans la police anglaise. Mais en plus, elle a une personnalité extrêmement forte. On sent que tout le monde est un peu, impressionné par ce qu'elle dégage. Elle est extrêmement intelligente. Et pour le coup, elle s'envoie en l'air avec absolument qui elle veut, quand elle veut et de façon hyper facile, hommes et femmes, mais sans aucun problème et sans qu'elle passe pour la fille facile ou j'en sais rien. Et en même temps, on voit aussi les limites de ce que peut renvoyer une femme dans ce rôle-là. Parce que la presse et les avocats de la défense s'emparent un petit peu de « Ah, mais elle joue de ce jeu de séduction pour la discréditer », alors que dans le sens inverse, si ça avait été un homme, on ne se serait pas posé la question. Donc voilà, et pourtant, elle ne faillit pas. Enfin, vraiment, elle tient, et elle tient jusqu'au bout. Et vraiment, un personnage très fort, hyper bien joué par Gillian Anderson. La deuxième raison, c'est quand même pour Jamie Dornan et pour sa prestation. Parce que très sincèrement, j'étais hyper sceptique en commençant la série. Le pitch me tentait pas mal.
Tu veux dire qu'il est bon en rôle de psychopathe, c'est ça ?
Mais grave, il est super bon. Mais non, mais moi, dans ma tête, il est clairement associé à Fifty Shades of Grey. Et pourtant, cette série, il l'a tournée avant les films mais de 51 degrés. Mais je pense qu'il était clairement moins connu à ce moment-là. Et il joue extrêmement bien. Et la particularité de cette série, et c'est la troisième raison pour laquelle je vous conseille d'aller la regarder, c'est que cette série, alors elle peut faire péter un câble aussi parce que c'est très lent. Hein. C'est vraiment, okay, vraiment très lent. Et vu qu'on voit tout, vu qu'on voit les deux côtés de l'histoire, parfois on a envie que ça avance plus vite. Mais en fait, tout est basé sur la psychologie des personnages. Et il joue aussi avec notre psychologie à nous, évidemment. Mais c'est des longues tirades, des longs échanges, parfois des scènes où il y a tout simplement personne qui parle, mais il se passe quelque chose et c'est très tendu et c'est assez dur à ce niveau-là parce que en fait on est en tension permanente, mais on a envie de savoir, on a envie que ça avance et on a vraiment l'impression d'être dedans, donc c'est hyper prenant psychologiquement et ça c'est la troisième raison pour laquelle vous devriez aller voir cette série. Puis, dernière info à savoir quand même, c'est que la série est tirée d'une histoire vraie, enfin se base sur une histoire vraie. Dans les années 70, aux États-Unis, donc c'est l'histoire d'un homme qui s'appelait Dennis Rader, R-A-D-E-R, si vous voulez aller voir. C'était donc un serial killer qui est responsable d'une dizaine de meurtres perpétrés entre 74 et 91. Et ce serial killer était surnommé BTK, BTK, pour Blind Torture and Kill. Donc,
le fun.
Très fun. Mais voilà, ça vous donne un petit teasing de ce dont il est question.
Ok. Oh, wow. Ça a l'air grave bien.
Mais ouais.
Les épisodes, c'est à peu près combien de temps ?
C'est long.
Ah putain.
En moyenne 58 minutes.
D'accord, ouais.
Mais il y en a un, je crois que c'est le dernier épisode de la saison 2 qui dure une heure et demie, un truc comme ça. Donc ouais, c'est quand même assez long. Mais j'avoue qu'à la fin, ce que je ne fais jamais quand je regarde un film ou une série, j'ai avancé. J'ai fait un mode rapide.
Ouais.
Mais,
oh, oui. Wow.
Mais parce que vraiment, il y a des moments où ça, si tu okay veux que ça avance et c'est pas possible, okay, il se passe rien. Et...
Okay.
Enfin, il se passe des trucs, mais il se passe rien.
Ouais.
Et puis j'avais envie de finir, quoi.
Je comprends.
En fait, je pense que j'ai déjà dit ici, mais j'aime pas les séries. Parce que... Parce que je sais d'avance que si j'accroche au premier épisode ou au deuxième épisode, je vais vouloir regarder tout le reste. Logique,
mm-hmm,
c'est comme ça que ça fonctionne une
évidemment
série. Sauf que j'ai pas le temps. Enfin, vraiment, je n'ai pas le time du tout. Mais là, quand t'es dedans, quoi.
Ça me fait un peu penser, alors dans un autre, quand même dans un autre style, mais je sais pas si vous aviez vu Mindhunters.
J'avais vu des parties. Mais oui, ça fait penser un petit peu à ça.
Alors,
effectivement.
C'est moi, j'ai trouvé ça bien. Après, bon, c'est des hommes qui parlent des hommes pour des hommes. Enfin, bon, ça c'est un peu chiant. Mais en gros, ça raconte. Je pourrais pas vous dire le nom du gars, mais le mec qui a, désolé, 50% des infos comme d'hab. Le mec qui a en fait conceptualisé les tueurs en série, le profil des tueurs en série. Et donc ça raconte l'histoire de ce mec qui est flic. Et qui, avec son assistant, je sais pas comment dire, mais voilà, va aller sillonner les États-Unis pour dénicher les affaires qui, selon lui, se ressemblent pour comprendre quel est l'homme qui a fait ça, en fait, et essayer d'établir un profil psychologique des mecs qui tuent plusieurs personnes de la même façon, avec un modus operandi et compagnie. Et, en vrai, c'est super aussi parce que chaque épisode est une histoire différente. Il y a un peu quand même une trame narrative en fond, etc. Mais dans chaque épisode, il va essayer de résoudre un cas, un nouveau cas, en fait. Et à la fois, il y a toute l'histoire où il essaye d'établir ses fameux profils psychologiques. Il va en prison rencontrer des mecs qui ont tué plusieurs personnes, souvent de manière atroce, etc. Moi, j'ai trouvé ça super. Après, voilà, c'est blanc de blanc.
Et c'est dur psychologiquement, quand même.
Oui,
c'est
par contre, dur, trigger warning, gore. Ouais,
c'est dur à suivre. Moi, c'est pour ça que j'ai regardé un petit peu par l'épaule de quelqu'un. Et après, j'arrivais pas parce que... Ah ouais, non, c'était vraiment très dur. Quoi.
C'est glaçant. Que des histoires vraies, du coup.
Enfin, je sais pas, mais en tout cas, même...
C'est que des histoires vraies.
Ouais, moi, même si c'était fictif, moi, je trouvais ça assez glaçant. D'accord. Donc, j'avais pas envie.
Ouais, et c'est sorti il y a pas si longtemps que ça.
Trop bien. Voilà. Mindhunter, c'est sur Netflix.
Oui.
Mais merci.
Merci beaucoup,
Marie-Stéphanie. Merci à vous.
C'est la fin de cet épisode.
C'est la fin de cet épisode, absolument. Je crois que j'avais pas envie qu'il se termine, il faut croire. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et merci surtout à vous trois d'y avoir participé.
Bienvenue, Fanny. Avec...
Ouais, welcome, Fanny. Super.
Merci beaucoup pour l'accueil.
N'hésitez pas à lui envoyer des petits messages si vous tenez des boulettes journales aussi. Des budgets. Est-ce que vous les appelez les budgets d'ailleurs, vous aussi?
Ah oui,
c'est,
question.
C'est
oui
long à dire boulettes
jargon,
journales.
C'est un jargon. Ah, pardon, j'ai pas la ref.
C'est le budget. C'est passion budget.
Trop bien. Eh ben, écoute, ouais, ravie de t'avoir vu dans LMK. Et puis, vous aurez toutes les rêves de cet épisode en commentaire.
Oui, parce que j'ai tout noté dans mon carnet pendant qu'on enregistre, voilà. Donc c'est bon, j'aurai tout.
Et de façon extrêmement bien écrite, pas du tout raturée. Enfin, c'est très beau.
Après,
vraiment,
j'ai une gomme, hein, ça sert à ça. Mais... Oui,
j'ai retenu l'idée de la gomme.
C'est, oui, c'est
une
important.
Bonne idée. Merci à tout le monde et à la semaine prochaine.
Merci.
Salut.
Bisous.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.